près de toi.
Près de toi.
Près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Mais comment tu fais, Armel, en fait? Parce que... Donc là, la chanson générique, elle est enregistrée dans un... C'est un des boutons?
Oui, c'est un bouton. Quand j'appuie dessus, hop, on l'entend.
Alors, ça fait pas... Si t'appuies juste pour dessus, que je comprenne.
Alors, c'est ah ben, plus compliqué que ça, Edouard. Oui.
Mais enfin, tu as des boutons qui correspondent à des fonds.
Oui. En fait, c'est comme... là, il faudrait que je rembobine comme une cassette. Vous vous souvenez des
je
cassettes?
Je comprends bien, bien entendu. Donc, c'est là, ma génération, là, les 20-70.
Là, je peux rembobiner. Et, alors, et maintenant, je peux...
Ah oui, d'accord, non, mais ça c'est bon. Oui, d'accord, je comprends. Donc, en fait, voilà. Donc, on peut avoir ça chez soi, en fait.
On peut avoir, je ne sais pas
les
si c'est très utile.
Les gens pourraient faire des petits kits.
Si j'appuie sur ce bouton, hop.
Ah oui, là, tout à coup, là, on est complètement dans autre chose, là.
Voilà.
Là, c'est formidable. Il y a un mélange de handball, de Miss France. Il y a Benoît Hamon qui resserre sa cravate, qui va vers son destin. Ah oui, là, c'est complètement autre chose, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, on peut appuyer sur des boutons au hasard, ouais, par exemple, celui-ci.
Hey, ah oui, là, il y a un côté. Hey, c'est cool, c'est lundi matin. On sort ce matin, on y va, on se parfume les aisselles et on fonce dans la rue. Et ça, c'est bien aussi.
Un autre?
Oui. Hey, Batucada. Ah oui, là, je vois la petite capirinha du matin. Elle est bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a en mélancolie, un peu, parce qu'il faut arrêter d'être gay. Ça ne sert à rien. La joie ne sert à rien. Toutes les joies se ressemblent alors que toutes les tristesses sont différentes. Et c'est tellement mieux d'être différent, d'être singulier. Les gaietés sont universelles alors que les chagrins sont singuliers. Ah oui, c'est mieux. Alors Thierry Paré, tiens, allez.
Radio Nova.
5 morts et une dizaine de blessés, pardon. C'est le bilan d'une fusillade dans une mosquée au Québec.
Attendez, reprenez-vous. Ouais. Vous devez rester... Vous ne devez pas subir l'info, il faut rester détaché, Thierry. Oui, sinon, vous ne finirez pas l'année. Si vous prenez tout trop personnellement, vous êtes obligé de...
Je pense que je vais mieux, mais je ne suis pas sûr en même temps. 5 morts et une dizaine de blessés, c'est donc le bilan d'une fusillade dans une mosquée au Québec. 2 hommes ont ouvert le feu sur la foule venue prier au centre culturel islamique de Québec. 2 suspects ont été interpellés. L'an dernier, une tête de porc avait été déposée devant l'une des portes de cette même mosquée.
Au Québec?
À Québec.
Qui était loin de tout ça, puisque même Trudeau avait dit aux gens de venir se réfugier chez lui. Ah oui, ça va, oui, d'accord, pardon.
Sur plus de 66 millions d'habitants, 1,9 million se sont rendus aux urnes hier pour élire Benoît Hamon. C'est plus qu'au premier tour, mais moins qu'en 2011. Benoît Hamon ou le futur désirable, hein, l'expression est revenue à 2 reprises hier soir dans le discours du vainqueur de la primaire, crédité de, je vous l'ai pas dit, 59%
non,
des voix.
Non, tu l'avais pas dit.
Contre 41%
pour
Manuel Valls. Moi, ça y est,
on l'attendait.
Oui, maintenant, oui.
Et maintenant, on l'a entendu.
Mais nous, avec Admen, on voulait le savoir. Ça. Ouais.
Benoît Hamon, on
a attendu longtemps. Hein.
Très longtemps. Oh. J'attends encore même.
Ah bah oui, moi j'avais plus envie. Quand c'est arrivé,
trop tard.
Ah oui, j'étais comme toi.
Trop tard.
Autant au début, il l'aurait dit.
Bon, il l'aurait dit, ça aurait été bien.
Parce on a été clients. Malheureusement, on est là, on n'y a plus cru.
On n'y a plus cru. Oh, bah, comme ça, dans arrivé, la brume de loin, voilà, ça
de loin,
arrive.
De dos,
au fond.
Et puis là, on n'a plus personne.
Plus personne. Voilà.
Continue, Thierry, c'est pas grave.
Oui, je vais y aller. Benoît Hamon a prévu, merci Chris. Benoît Hamon a prévu de rencontrer le Premier ministre Bernard Cazeneuve dans la journée. Et puis François Hollande devrait rencontrer Benoît Hamon, lui, dans le courant de la semaine. Selon un sondage. Alors, on en parle du sondage ou pas?
Oui, j'ai envie, vas-y, oui.
Bon, selon un sondage. Ouais, mais il veut rien dire en même temps. Benoît Hamon passerait devant Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle avec 15% pour le candidat socialiste, 10% pour le candidat de la France insoumise. Benoît Hamon qui resterait, bon, loin derrière Emmanuel Macron, 21%, tandis que Marine Le Pen fait la course en tête, 25%, 3 points devant François Fillon qui décroche. À 22% après l'affaire concernant les activités de son épouse.
Foutez-lui la paix, ma petite Pénélope.
Oui, elle a pleuré.
De toute façon, c'est vous qui allez lui trouver du boulot. Thierry Paré, c'est vous qui allez l'engager. Non.
Peut-être.
Heureusement qu'elle a son petit François.
Elle a son mari qui est là, qui lui trouve quelque chose pour faire des trucs. Et on lui reproche.
On lui reproche. Voilà, c'est comme Madame Kelly qui est l'assistante d'Admen Kelly sur l'émission. Ça n'a rien à voir avec son nom, c'est qu'elle est.
Sauf que la mienne n'est pas payée.
Donald Trump gouverne à coup de décret hein, depuis son investiture, on le sait, on en parle beaucoup, mais aucun n'aura fait autant de bruit, aucun n'aura suscité autant de critiques que celui sur l'immigration signé vendredi. Un décret qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen. La mesure a provoqué un véritable tollé à travers le monde. Des milliers de manifestants ont défilé à Washington, devant la Maison Blanche, à Los Angeles, à San Francisco, à New York également. On notera qu'à New York et en Virginie, des juges fédéraux ont réussi à imposer un sursis à ce décret de Donald Trump après de nombreux recours déposés par des associations. Et partout dans le monde, ce week-end, des ressortissants des pays concernés par ce décret se sont retrouvés bloqués dans les aéroports ou ont été renvoyés vers leur pays d'origine. Air France a annoncé par exemple avoir retenu une quinzaine de personnes devant se rendre aux États-Unis. Le mondial de handball et l'équipe de France qui remporte donc sa compétition en battant la Norvège en finale hier soir 33 à 28, hier en soirée on va dire. C'est son sixième titre mondial, hein, deux de plus que leurs dauphins, les Suédois et les Roumains. La fin de la 22e journée de Ligue 1 de football, le PSG et Monaco ont fait match nul hier soir un partout au Parc des Princes. Le PSG a ouvert le score. Monaco donc a égalisé dans les arrêts de jeu. Au classement, Nice et Monaco sont en tête, 49 points. Le PSG est 3e, 46 points. Et puis de la Ligue 1, on passe à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les demi-finales opposeront mercredi le Burkina Faso à l'Égypte et jeudi le Cameroun au Ghana.
Merci Didon Atmen, le sondage là.
Oui.
Il n'était pas clair. Hein.
Non, c'est pas clair, comme, tous les sondages.
Il y a un moment, s'il passe devant, l'autre passe derrière. S'il vas-y que je te pousse, je comprends rien. Compris.
C'est fait comme ça la dernière minute sur une nappe de papier au restaurant.
Je me demande si c'est pas des chiffres inventés, moi.
Oui, je crois. Pour faire du chiffre.
Oui, il faut faire du chiffre.
Pour dire
c'est-à-dire qu'il est payé au chiffre, Thierry Paret.
Un petit peu.
Il est...
Et à la virgule, à la décimale, je dirais. À la décimale près, il est payé.
Et alors, je le vois quand il remplit, il est dans les bacs, là, quand il remplit, là, ben, il fait sa petite devanture. C'est pas bien.
Non, c'est pas bien du tout.
C'est pas ça qu'on veut, là.
Non, c'est plus ça qu'on veut.
Et dis donc, alors Tito, on fait la météo flamenco maintenant ou à 7h30, je te sens.
On la fait maintenant.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que les voix de ce matin?
Ah non, moi j'ai très
bonne voix. Ça vous arracherait la gueule de boire quelque chose, d'arriver avec des voix fraîches. Vous savez qu'à 7h06, il y a des auditeurs.
Je vais faire la
qu'est-ce qu'elles ont
à la Marie Missé.
C'est un hommage à Marie Missé. Météo flamenco.
Alors aujourd'hui, il pleut partout, dans le nord, jusqu'à Bourges, La Rochelle, à Paris bien sûr, et dans le sud, eh bien, il y a des nuages, très peu de soleil. Pour les températures, entre 7 et 11 à Paris, à Marseille, entre 8 et 12, Ajaccio, 9 et 14, Biarritz, 10 et 18, c'est grave. À Bordeaux, bien sûr, 8 et 17, à Nantes, 10 et 13, à Strasbourg, 1 et 8, et à Dijon, entre 2 et 9, et à Lille, entre 7 et 9, et à Brest, entre 11 et 13.
C'est beaucoup plus gros qu'un chat, l'animal que vous avez dans votre gorge.
C'est carrément la gouttière, je crois.
Merci, bonne chance.
Tout perdu.
7h-9h, plus près de toi.
Voilà. À 7h13, la fine fleur des gens qui ont une opinion sur tout. Et là,
tout le monde.
Et tout le monde est vraiment qui n'en pense pas moins. Vous avez Christophe, Marie, Atmen, Tito, vous avez vu des choses ce week-end. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous,
d'abord,
Christophe
l'élection de Miss Univers, première Miss Univers française depuis 1953, c'est Iris. J'arrive pas à dire son
alors
nom.
C'est la Miss Météner. Donc elle a été élue Miss Univers, la Miss France. On a gagné.
Oui, elle est belle.
Elle n'est pas vénézuélienne du tout, elle est française.
Elle est française, monsieur. Elle est hyper belle.
C'est une future dame de France, peut-être.
Oui, peut-être.
Parce que les Miss deviennent...
Vous pensez, par exemple, vous voulez dire, je vais plus loin, Fillon répudierait Pénélope en disant, tiens, tu travaillais pour moi sans me l'avoir dit.
Voilà.
Parce que c'est peut-être elle qui, sans lui avoir dit, et dit, tiens, Miss Univers, voilà. C'est Carla Bruni plus
Pénélope. Elle faisait des chèques quand il partait, prenait le chéquier.
D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on ait gagné la finale de handball, vous pensez?
Aucun rapport.
On a gagné deux choses.
Mais c'est quand même super classe aussi, parce que c'est la sixième victoire de l'équipe de France.
À Miss Univers.
Handball.
C'était beau, vous avez été ému, vous avez vu le match?
Non, j'ai pas vu le match.
On recommence. Vous avez vu le match?
Oui, j'ai vu le match, bien sûr, j'ai vu le match,
beau.
Évidemment. C'était incroyable, Nicolas Karabatic.
Moi, j'ai vu le match, ça a démarré. Ils ont démarré un petit peu en dessous. Et c'est un suspense insoutenable pour moi, le handball, parce que dès qu'ils ont marqué, tout de suite ça repart derrière et il y a un truc comme le basket que moi je ne supporte pas.
Vous êtes très sensible aussi, faut
oui,
dire,
voilà.
Les gens
je voulais qu'ils gagnent. Voilà.
Vous pouvez saigner du nez pour un rien. Thierry, vous êtes...
Des fois j'ai des raisons.
Moi je conseillerais à Atmen plutôt le sumo, du coup, pour le coup. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé, quoi,
qui sont les rois du sumo dans le monde?
Les Japonais.
Pas du tout, justement, ce sont les Mongols. Il y a un titre sumo qui s'appelle le Yokosuna. Quand tu es considéré comme un Yokosuna, tu es le roi des rois, c'est le plus gros. Voilà, c'est le plus fort des sumos. Et sur les quatre premiers, il y a trois Mongols. Et pour la première fois, il y a un Japonais qui a accédé à ce Graal. Il s'appelle Kise No Sato. Il a 30 ans. Il fait 178 kilos. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire.
Non, mais c'est important. C'est arrivé sous Ken.
C'est arrivé sous Ken.
D'accord, trois Mongols. D'accord.
Oui. Il y a trois Mongols sur le toit du monde de la matière.
Et bah voilà, bah je le dis. Une omerta médiatique qui est quand
c'est
même.
C'est depuis que Chirac est plus au pouvoir.
Incroyable.
Parce que Chirac, il est fou
de oui. On les garde comme les oies dans le Gers. Pareil, les pauvres, on leur met un grenet dans la bouche, on leur met à manger, puis ils grossissent comme ça.
Merci Tito de cette participation.
Et d'ailleurs, les sumos font de très bons foie gras.
Oui, il y a des foies de sumo. Marie, qu'est-ce que vous avez vu ce matin? Vous allez nous parler.
Je sais pas, mais j'ai vu que le qui ont bien maté le match, c'est parisien, puisqu'ils en font toute leur une. Et puis c'est super lyrique. Elle est allée flâner dans des contrées inaccessibles à des distances jusque-là inexplorées pour décrocher le soleil. Ça, c'est les trois premières phrases pour parler de l'équipe de France de handball. Et puis dans la lignée de vos propos un peu sexistes depuis tout à l'heure,
ah bon,
sachez que.
On n'a rien dit.
En PCF, il y a un sénateur qui lui aussi a employé sa femme et il dit: attends, mais moi, elle bosse, elle nettoie même les chiottes de la permanence. Voilà,
Dominique est arrivé. Est-ce que les femmes politiques emploient leur mari comme assistant? Donner le micro à Dominique.
Je sais. Enfin, j'ai pas fait la comptabilité, mais il doit y avoir des cas d'emploi familiaux, y compris lorsque c'est la femme qui fait de la politique.
Hein. Il faut qu'on trouve le mari. Le mari de Michel Alliot-Marie, il était député aussi.
Vous savez, Edouard, vous avez aussi des hommes politiques qui épousent leurs collaboratrices.
Oui. Ce sont de très belles histoires.
Ah oui. Et à ce moment-là, bon, l'histoire est différente.
Et Bernadette Chirac, quand elle était au RP, elle était payée aussi à un moment donné.
Oui, mais c'est.
Il y a eu plusieurs époques. Elle a été élue de Corrèze pendant très longtemps.
Ah oui, après elle a été élue.
Vous avez vu des kangourous aussi,
oui,
Christophe,
j'ai vu un très beau reportage hier soir. Hier après-midi.
Ça
sur
va
le
pas
kangourou.
Bien chez toi, alors.
Le kangourou roux. C'était kangourou. Sur quelle chaîne?
C'était sur la 5.
On peut le revoir en replay, ce kangourou?
On peut le revoir en replay. Il est super grand. Et il peut mesurer, je crois. Enfin, il est grand comme ça. Il est assez haut.
Alors, on le voit tous. Regardez votre radio.
Voilà. Et puis, le type se bat. Comme un mec.
De kangourou ou pas le type? C'est très costaud un kangourou.
Oui, mais parce que quand tu le vois, tu diras un mec. Et il se tape avec un autre kangourou. Et il y a la femelle qui est derrière, comme ça, qui attend. Elle regarde et elle prend le vainqueur à droit à la femelle. Et c'est lui qui a remporté. Mais non, mais c'est sérieux. Mais je te parle des kangourous.
L'autre
je te parle
meurt
pas
ou
des...
pas? L'autre est mort ou pas? Non, dans la nature, c'est toujours comme ça. Les deux mâles qui se battent pour la femelle et elle part avec le gagnant. Enfin, Christophe.
Il est KO.
Il y a une force herculéenne dans les pieds qui peuvent frapper. Ils peuvent donner des coups et le kangourou fait des bondes. Je sais pas comment. C'est très, très fort.
C'est un marsupial, on appelle.
Tito, oui.
Les femmes politiques doivent rêver d'avoir des kangourous dans le lit.
Merci.
Mais justement,
il y a deux personnes qui sont mortes ce week-end que vous admiriez beaucoup, Atmen.
Hier soir, il y avait un jour un destin avec mon petit Delahousse. Et il y avait une direction d'acteur de Michael Haneke sur Trintignant, qui était incroyable, et surtout sur Emmanuel Riva, qui nous a quittés. Et on voyait quand même à son âge qu'elle était d'une précision. Il lui demandait des choses sur la colère, c'était incroyable. Donc Emmanuel Riva
était dans Amour avec Jean-Louis Trintignant.
Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Riva, dans Les risques du métier avec Jacques Brel, où il est incroyable. Les yeux sont. Sa femme qui le défend envers et contre tous.
Il est accusé
de pédophilie en classe. Et elle est comme ça. Il t'accuse. Elle dit cette phrase. Il t'accuse parce que je n'ai pas su te faire d'enfant. C'est pour ça que toute la rumeur, elle lui dit.
On a revu à l'occasion de sa mort des extraits d'Hiroshima,
mon amour,
avec une intensité.
Et elle a eu la mort samedi de John Hurt, que moi j'adore, qui a commencé. Il avait une maladie de peau à cause de ce film Elephant Man, où il est resté maquillé pendant 6 mois. Et il hurlait comme ça, je ne suis pas un animal. Il a gardé ce truc-là pour rentrer dedans. Il s'est fait exploser le ventre par un alien. C'est le début de sa carrière. Et il a fini dans un Indiana Jones.
Il s'est fait exploser le ventre.
Dans Alien. C'est lui qui se fait déchiqueter le ventre par cette petite bébête qui ressemblait à une saucisse à l'époque. Voilà, c'était une pub pour pas manger des McDo. Moi, j'adorais ce film. Voilà. Et il finit dans un Indiana Jones où il était incroyable. Il dit, c'était pas le genre de film que je regardais dans ces années-là, mais c'est bien de finir ma carrière avec ça, il avait dit.
Merci, on est bien, on est propre, Armel.
Ah oui, on est très propre.
On est bien, Eugénie.
Très, très bien.
Et ben musique.
Et musique.
Alain Souchon. Dominique Régnier, vous donnez cours aujourd'hui à Sciences Po ou pas?
Non, demain matin, 8h à 10h, mon premier cours de la semaine.
Ça va être sur quoi?
C'est sur l'histoire de l'idée européenne. Ça s'appelle Généalogie de l'idée européenne.
Alors, vous arrivez avec une petite mallette?
Non. Une sacoche? Non. Non, j'ai envoyé sur mon compte Gmail le cours que je présente sur un écran. Je me suis envoyé par email et j'ouvre mon email, mon Gmail au début du cours et puis je présente les slides, comme on dit, des pages.
Vous l'envoyez pas à vos élèves avant?
Non.
Vous vous l'envoyez, donc il est, pendant que vous parlez, il est
voilà,
affiché.
Voilà, je l'affiche et puis je passe les différentes pages que j'ai préparées avec des extraits de texte ou des données que je présente pour que les étudiants puissent plus facilement noter et voir de quoi il s'agit. Puis ensuite, quand je quitte le cours, au bout de 2 heures, je leur renvoie la même chose sur leur Gmail à eux. Sur leur
Alors, compte. Le plus de votre présence physique, puisque c'est des amphithéâtres de 150, 200 personnes, c'est quoi? Il y a un côté quand même d'orateur, il faut prendre sa salle, il faut choper les regards et l'attention.
Il faut susciter l'attention, montrer que c'est utile à leur formation, à leur projet professionnel, et le faire pendant 2 heures. Et c'est long, 2 heures. Hein.
Ben c'est long, mais surtout, mais là, vous me dites que vous avez le cours écrit, donc... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous pose vraiment, je fais l'avocat du diable, il y a besoin quand même du professeur physiquement ?
Ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup moins besoin qu'autrefois du professeur physiquement présent. Mais alors là où c'est très utile, c'est quand on se met à spéculer, c'est-à-dire qu'en relation avec les étudiants, on montre par exemple l'extrait d'un texte, et en relation avec les étudiants, on commente le texte, et on reçoit en même temps, soit parce que c'est explicite, ils prennent la parole pour dire ce qu'ils pensent du texte, soit parce qu'il y a une espèce de, ben vous savez ça très bien vous, mais une espèce de communication, parce qu'on les voit s'interroger ou suivre ou se concentrer, prendre plus de notes, ou au contraire avoir l'air interrogatif et on sent bien que ça passe pas.
Donc il faut, Dominique Régnier, il faut l'incarner quand même le texte.
Ah oui,
c'est très important,
oui,
c'est vous qui êtes le transmetteur.
Il faut le lire, il faut le relire à haute voix, il faut insister sur des mots, il faut recommencer volontairement. Un extrait de texte, je peux le lire 5 à 6 fois dans le même cours.
Mais c'est signé, c'est vraiment, c'est l'enseignement de Dominique Régnier, c'est ça qui fait encore la force de l'éducation, c'est le rapport personnel
à quelqu'un. En tout cas, moi je le vis comme ça, et à la fin, vous êtes épuisé, et on espère que les étudiants qui sont... Michel Foucault disait quelque chose qui est un peu ma référence de ce point de vue-là. Vous venez à un cours de 2 heures, vous mettez 1 heure pour venir, vous mettez 1 heure pour repartir chez vous. Disons les choses comme ça fait 4 heures. Et il disait, il faut qu'en 2 heures de cours, je vous apporte au moins autant que 4 heures de lecture d'un bon livre. Ça, c'est un sacré défi.
Oui, ok, de l'intensité.
Voilà.
Dominique, vous avez regardé le débat hier soir. Qu'est-ce que je raconte? Je suis complètement gâté. Vous avez suivi le résultat des élections. J'ai le mec qui a toujours une semaine de retard. Donc, pour vous, c'était une surprise l'élection de Hamon?
Non, ce n'était pas une surprise. C'était une élection qui était arithmétiquement prévue, à peu près d'ailleurs dans les résultats qui ont été donnés hier. C'est un résultat qui a une grande importance. On ne le mesure pas tout de suite peut-être, mais c'est la déconstruction, voire l'effondrement de tout ce que le Parti Socialiste avait tenté de construire probablement depuis Lionel Jospin, depuis 1997, c'est-à-dire un socialisme de gouvernement qui s'est forcé de réussir au gouvernement en renonçant à des idées jugées, parce que chacun juge ça bien sûr, mais jugées irréalistes. Et là, tout d'un coup, c'est un retournement complet, puisque Benoît Hamon a été élu d'une part sur le rejet des socialistes qui avaient gouverné et qui ont déçu une partie de leurs troupes, d'autre part sur des projets particulièrement dépensiers, généreux, le revenu universel en est bien sûr le meilleur exemple. Donc tous les efforts qui ont été faits jusque-là par Lionel Jospin, par François Hollande, par Manuel Valls sont par terre. Et donc c'est un parti socialiste d'opposition durable qui vient d'apparaître hier soir. Peut-être même que ça le fait sortir du jeu politique pour un bon moment.
Vous pensez que même s'il ne va pas très loin à la présidentielle, Benoît Hamon va être à la tête d'une reconstruction d'une autre gauche?
Il faudra ensuite que le Parti Socialiste, une fois que le résultat, supposons qu'il perde, ce qui est le plus probable aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est sûr, mais c'est le plus probable, la présidentielle, le candidat du Parti Socialiste va devoir se bagarrer pour tenir l'appareil, pour ne pas être débarqué et remplacé par un autre profil. Mais ça va être difficile parce que la primaire a été voulue, inventée même par le PS en France. Elle a eu lieu 2 fois, elle a produit comme résultat Benoît Hamon. Ce sera difficile pour le PS de dire ensuite on ne respecte pas les règles que l'on s'est fixées à soi-même. Donc l'enjeu pour Hamon aujourd'hui, c'est de devenir le patron incontesté du PS, de faire un score pas trop mauvais à la présidentielle, pour ensuite être celui qui va tenter de reconstruire dans l'opposition, imagine-t-il, jusqu'en 2022, le Parti Socialiste. Mais ce sera... un PS très différent, très à gauche, qui va apparaître.
Dominique Régnier, il y avait aussi un grand événement ce week-end, c'est le fameux meeting de François Fillon que tout le monde attendait après cette affaire de sa femme rémunérée comme assistante parlementaire. Comment ça s'est passé du point de vue des Républicains?
Alors vu de l'extérieur, le meeting était retransmis, on voyait, il y a eu beaucoup de monde, ça c'était un point positif. Beaucoup de personnalités de la droite et du centre étaient présentes, donc ça signifie qu'ils ne lâchent pas leur champion, parce que ça a été évoqué, on le sait, dans les jours précédents. Mais il y avait aussi un deuxième élément. Donc là, c'était pour essayer de rebondir après cette affaire dans laquelle le candidat des Républicains s'est enlisé. Et puis il y avait un deuxième élément très important, c'était son discours. C'était frappant de l'écouter, un discours beaucoup plus social, beaucoup plus modéré, beaucoup plus mobilisateur que les discours précédents qu'on avait remarqués comme étant très libéraux, très réformistes, un peu durs en fait, disait-on, pour ceux qui en faisaient la critique. Donc là, c'est à la fois relancer la campagne après cette crise liée à cet emploi de son épouse, et en même temps modifier le contenu, y compris pour faire droit à des critiques qui venaient de son propre camp, où on disait, au fond, il ne faut pas oublier les classes populaires, les petites retraites, enfin tout ce qui a été évoqué hier et qui marque un vrai tournant.
Alors on disait, tiens, si jamais il est obligé, bon, il y a très peu de chances de se retirer, Sarkozy a dit qu'il n'irait pas, Juppé a dit qu'il n'irait pas, il y a un nom qui vient, il y a quelques noms qui seraient possibles, qui reviendraient, des vieux chevaux de retour de la droite qui réapparaîtraient.
On ne peut pas imaginer ça, en fait. Hein, c'est-à-dire que si là aussi, c'est pareil, on met en place des procédures, la primaire à droite pour la première fois, il y a un champion, il y a un deuxième, il y a un troisième. Il faut bien que le deuxième ou le troisième accepte. Je ne pense pas qu'il refuserait réellement si la crise devenait plus grande, plus forte. Il s'agissait sans doute pour eux, Alain Juppé comme Nicolas Sarkozy, de dire, d'une façon d'ailleurs pas toujours très convaincante, hein, qu'il n'était pas question d'envisager une autre hypothèse que celle de François Fillon.
Merci, cher Dominique. C'est la pub, mon vieux. C'est la pub.
Dire qu'au meeting, il nous a appris quelque chose, oui. Qu'il avait un compte en banque au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe, et je trouvais ça magnifique.
Pub.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Bien sûr, jeunesse de combat, 7h31, le rappel des titres from Thierry Paré.
6 morts et une dizaine de blessés, c'est le nouveau bilan d'une fusillade dans une mosquée au Québec. Attentat terroriste, hein, selon le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Deux hommes ont ouvert le feu sur la foule venue prier au centre culturel islamique de Québec. Deux suspects ont été interpellés. L'an dernier, une tête de cochon avait été déposée devant l'une des portes de cette même mosquée. Donald Trump qui gouverne à coups de décret depuis son investiture, mais aucun décret n'aura fait autant de bruit, n'aura suscité autant de critiques que celui signé vendredi sur l'immigration. Un décret qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen également. La mesure a provoqué un véritable tollé à travers la planète. Des milliers de manifestants ont défilé devant la Maison-Blanche hier à New York et en Virginie. Des juges fédéraux ont réussi à imposer un sursis à ce décret de Donald Trump. Benoît Hamon, 59%. Manuel Valls, 41%. C'est plié. C'est Benoît Hamon donc qui représentera le Parti Socialiste à la présidentielle. 1,9 million aux alentours de 2 millions de personnes se sont rendues aux urnes pour élire Benoît Hamon. C'est plus qu'au premier tour, mais moins qu'en 2011. Benoît Hamon qui a proposé d'ores et déjà à Yannick Jadot, le Vert, et Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, de construire une majorité gouvernementale. Premier député aborigène élu à la Chambre des représentants en 2010, sous les couleurs du Parti libéral, Ken Wyatt a été nommé ministre. C'est une première, un ministre aborigène en Australie. Il a été nommé lors d'un remaniement dans le gouvernement conservateur de Malcolm Turnbull. Ken Wyatt devient donc ministre des personnes âgées et de la santé des populations autochtones. La Française Iris Mittenard, 24 ans, a été élue Miss Univers à Manille. C'est là-bas que le concours se passait. Elle a devancé ses concurrentes Miss Haïti et Miss Colombie. Le mondial de handball, l'équipe de France a donc remporté sa compétition en battant la Norvège en finale hier en soirée 33-28. La fin de la 22e journée de Ligue 1 de football, le PSG a fait match nul face à Monaco. Un but partout hier soir au Parc des Princes. Au classement, Monaco est en tête, Nice est second, mais ils ont le même nombre de points, 49. Le PSG est troisième avec 46 points. Et puis la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, les demi-finales, elles opposeront le Burkina Faso à l'Égypte et le Cameroun au Ghana.
Merci. Atmen, vous n'êtes pas présenté à Miss Univers cette année?
Non, je n'avais pas les critères, non. Ni les mensurations.
Vous pensez que ça a beaucoup changé? Parce qu'on dit que l'année dernière, vous aviez été tenté.
Mais l'année dernière, j'avais vraiment beaucoup travaillé sur ma chevelure, sur mes talons.
Et là, vous êtes laissé aller.
Là, je me suis un peu laissé aller du ventre. J'ai eu des petits poignées d'amour qui sont arrivés comme ça à la dernière minute.
Vous ne correspondez pas aux critères. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas beau. Mais ce ne sont pas les critères aujourd'hui qui sont requis pour être Miss Univers.
C'est-à-dire que des amis autour de moi m'ont dit « tu es très beau, tu es magnifique, tu peux y aller ».
Ce sont des amis choisis, ça peut être votre femme,
des
amis aveugles.
Ces amis, je peux le dire, c'est des enfoirés.
Des enfoirés aussi.
Ils sont un peu foutus de ma gueule.
Merci à toi. Jack, souvent, vous étiez à La Rochelle jeudi, y êtes-vous encore?
vraiment.
À tout vous fait rire, vous êtes une merveille, tout vous enchante. Vous êtes soleil, vous êtes joie, vous êtes bonne humeur, vous êtes.
Oui, en tout cas jusqu'à maintenant.
Eh ben c'est fini maintenant, mon petit vieux.
Terminé.
Vous êtes où, cher Jack?
J'étais porte des Lilas, à Porte des Lilas, puis j'ai rencontré deux jeunes filles qui prenaient le bus 96 qui va à Montparnasse pour un train à 8h45 pour Bordeaux.
Oui, c'est ça. Voilà, on rentre chez nous à Bordeaux à 8h45.
Vous avez dormi?
Excusez-moi, Edouard. Excusez-moi,
non, elles ont dormi ou pas?
Oui, on a dormi, oui. Oui, on a dormi chez ma tati hier soir.
On a dormi chez la tati. Elles étaient au match de hand, c'est ça?
Oui, on était à la finale de hand hier à Bercy, aux Arnas. Ouais. Donc les Français ont gagné et c'était génial.
Et vous avez dormi où? En fait, parce que moi, je ne vous ai pas trouvé.
On a passé le week-end chez ma tati qui habite à Porte des Lilas.
C'est laquelle de tati? C'est la sœur à papa ou la belle-sœur
à
maman?
La sœur à papa.
Ouais. C'est tati, comment elle s'appelle déjà?
Tati Lila.
Non.
Voilà, non. Tati Midi.
C'est tati Midi?
Tati Emily, ouais.
Emily, oui. La voix est un peu éraillée.
La voix est un peu rock, j'ai un peu trop crié hier, je pense.
Vous connaissez peut-être Tito qui habite près du lac d'Ourthain?
Ah, pas du tout.
Et, ouais. Alors, et vous habitez où à Bordeaux?
J'habite à la Vieux-Port, moi, près plus précisément.
Ah ouais, mais ça c'est Bordeaux, mais vous n'avez pas trop l'accent pourtant.
Non, parce que je viens du sud de base, je fais juste mes Bordeaux, mes études à Bordeaux. Normalement, je viens de Marmande, c'est encore plus paumé.
Le pays de la tomate.
Voilà, c'est ça, le pays de la tomate.
Et tati Émilie, elle était contente de vous voir débarquer ce week-end ou pas?
Ouais, elle était contente, on a squatté son lit avec la copine Clara, du coup elle a fini sur un matelas, elle était contente.
Ah bah elle est sympa, dis donc elle vous laisse le lit et elle prend le matelas.
Voilà, c'est ça.
Elle vous fait à manger?
Non, on a mangé à l'extérieur quand même, parce qu'on a visité la ville, du coup pas dans le week-end, parce qu'on va pas à Paris tous les week-ends.
Oui, mais c'est pas un hôtel chez Tata Emily, quoi, on peut pas arriver, lui prendre son lit, pas rester manger.
On imagine Poupette dans la boue qui s'occupe d'eux.
Non.
Qu'est-ce que vous avez vu ce week-end à Paris qui vous a plu, à part le handball?
Ben, on est allé à la Tour Eiffel, oui. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Clara? On a fait la place du Louvre, on a fait les magasins aussi, beaucoup.
Ah ben ça l'a fait marrer, ouais, ça les magasins ça fait toujours marrer,
magasins,
c'est,
ben ouais.
C'est le compte en banque qui rit moins.
C'est la troisième démarque des soldes, faut en profiter.
Donc vous avez acheté quoi? On est parti sur quoi?
Alors on est parti sur deux pantalons, deux hauts, une paire de chaussures, une parka, des bijoux, voilà.
Ah oui d'accord, c'est vraiment la totale, la Tour Eiffel, la place des Vosges, la tati Émilie, le matelas, le machin, le truc là, vous vous êtes bien gavés hein, sur le dos des Parisiens.
Ouais,
hein. Et ben moi je vais me venger la prochaine fois que je vais à Bordeaux, je peux te dire je vais les piller les magasins, je vais la faire la place des Vosges. On vous fait un bisou, on vous laisse avec Jack souvent. Jack, vous les accompagnez?
Alors, en tout cas, je ne sais pas où on est là, mais en tout cas, la valise est énorme. C'est toutes les courses qui sont dedans.
Ouais, il y a beaucoup d'habits que j'ai achetés, ouais.
Et pour deux jours, c'est un peu gros.
Ouais, légèrement.
On continue, je vous accompagne jusqu'à je ne sais pas où, je veux sortir je ne sais pas où, et puis on se rappelle.
Ah, je croyais que vous les rappeliez, elle.
non, mais je les accompagne à bout, et puis je vous rappelle, Edouard.
Très bien, rappelez-moi, cher Jack. Faire le plein pendant un séjour à Paris. Le plein de sacs, le plein de rêves, le plein de souvenirs. Faire le plein, puis prendre le 8h45, le train de 8h45 pour Bordeaux. Ah, traverser la campagne, l'Aquitaine, et puis arriver et dire...
Non, c'est pas cette musique-là.
Non,
là.
C'est pas ça.
Mais tati Émilie qui a dormi par terre sur le matelas, c'est
bien.
Moi, ça me touche un peu.
À tout de suite, le temps de digérer toutes ces infos.
Edouard.
Je suis parce qu'il y a les parents de Roxane.
Oui, voilà.
Est-ce que Roxane, assieds-toi sur le tabouret là. Tu peux monter tout là-haut un peu. C'est une sorte de Tour Eiffel du studio. Parce qu'on est
de pupitre.
Voilà.
De promontoire.
Roxane, prends-toi. Donc les parents de Roxane qui sont là, comment ils s'appellent tes parents? C'est quoi leur prénom?
C'est Valérie et Nicolas.
Alors Nicolas étant plutôt le père qui est là. Et
oui.
Valérie, est-ce que à la maison tu les appelles Valérie ou Nicolas? Tu les appelles comment?
Je les appelle maman et papa.
Et toi, ils t'appellent comment?
Ils m'appellent Roxane.
Et parfois, t'as des petits surnoms? Comme quoi, par exemple? T'as pas des petits noms d'animaux?
Bah, je sais plus.
Ils t'appellent toujours Roxane?
Non.
Ah, parfois ils t'appellent comment alors?
Je sais plus.
Moi, j'attendrai.
C'est vrai.
Oui.
Ma princesse.
Ah, ma princesse. Très bien. Est-ce que ça te dérange d'avoir le casque, d'écouter ta voix? Ça te déconcentre un petit peu, non? Tu veux l'enlever?
Non.
Parce que Atmen, lui, il le met, c'est pour ça qu'il n'est pas très...
Oui, c'est ça qui perd sa tête.
Alors, on va... Tiens, alors, t'as
un petit... Il y a longtemps que vous ne m'avez pas appelé ma princesse.
Oui, bah, je vais le faire maintenant. On va vous mettre un petit jingle, Roxane.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Roxane, les 6 ans, tu les as eus quand?
Je les ai eus le 13 mars.
Est-ce qu'il y a eu des cadeaux?
Bah, oui.
Par exemple, quoi?
Par exemple, bah, j'ai eu du parfum.
Du parfum?
Oui.
C'est ce que tu avais demandé au père anniversaire? Qui est l'équivalent du Père Noël pour les anniversaires?
Bah non, j'avais commandé qu'un seul truc.
C'était quoi ce que tu avais commandé?
Une voiture télécommandée sur un circuit.
Ben Nicolas, pourquoi il y a eu... elle a demandé du parfum, pourquoi vous lui... Une voiture télécommandée, pourquoi vous donnez du parfum?
Mais parce que en fait, il y en avait... J'étais aussi passée chez ma petite cousine. Alors, on a fêté Noël d'avance et elle m'a apporté des trucs pas prévus. Mmh. Et j'ai refait un Noël quelque part d'autre et j'ai aussi eu des trucs pas prévus.
Ah d'accord, donc il y a eu le Noël de mars et le Noël de décembre. Je suis un petit peu perdu dans mes semaines. Oui,
hein, c'est normal.
Et aussi, bah, j'ai eu la voiture télécommandée sur un circuit.
Qui était parfumée aussi,
mais,
non?
Non, mais le circuit, il est très fragile. On en a acheté un autre parce que la voiture bleue, elle a coincé. Mmh. Mais on a finalement gardé le circuit.
D'accord.
Le deuxième circuit parce que...
Bah oui, donc il y a deux circuits, un parfum, oui. Donc t'es gagnante, quoi. T'avais demandé qu'un circuit, t'en as eu deux.
Et aussi, j'ai eu du vernis à ongles qui s'enlève à l'eau.
Qui s'enlève à l'eau avec le parfum dans la voiture rouge, qui est bleue du circuit.
Non, ils étaient séparés.
C'était
chacun un cadeau, mais ils n'étaient pas dans la même boîte.
D'accord, mais quand tu joues à la voiture bleue du circuit, est-ce que tu mets ton parfum avec ton vernis?
Non.
Non. Donc tu vois que c'est ce que je disais.
Sur les cadeaux, elle est quand même plus claire que Pénélope Fillon, quand même, je trouve.
Alors on va écouter ton... Tu voulais me le chanter, le poème, c'est ça?
Oui.
C'est quoi ce poème chanté?
C'est une chanson d'un bonhomme de neige.
Et c'est qui l'a écrit?
C'est Jacques Prévert.
Jacques Prévert, qu'Atmen connaissait bien.
Très très bien, on allait au café tous les matins, aux Alpes.
Alors,
on
va écouter, alors, tu peux chanter, ma chérie, tu peux y aller. Quand tu veux.
Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. Un grand bonhomme de neige, poursuivi par le froid. Il arrive au village, il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau.
Bravo,
bravo. Bravo.
Atmen, Roxane, c'est quelque chose que vous avez observé dans la vie réelle, la disparition des bonhommes de neige attirés par la chaleur, qui ne se rendent pas compte qu'il ne faut pas s'asseoir sur du chaud. C'est un drame de la vie, tu trouves, ou pas?
Je ne sais pas.
Il y a une allégorie sur la vérité, le poil étant
non,
la vérité,
non,
le chaud, se rapprochant trop, on disparaît, parce qu'on veut
non,
dire...
Non, je ne peux pas accepter ça.
Petite explication.
Roxane, je ne veux pas qu'on t'embête plus longtemps, tu vas partir pour l'école?
Oui.
C'est une bonne nouvelle d'aller à l'école?
Oui.
Bon, sinon je te fais un petit mot. Tiens,
De toute façon, c'est bientôt les vacances.
Non, je ne peux pas vous laisser dire ça.
Mais si.
Non.
Écoutez, je quitte le studio.
Voilà, c'est une bonne nouvelle. Bravo, Roxane.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Atmen, vous avez eu la chance de voir en avant-première Le Privilège, un film qui ne sort que le 22 février, qui est votre coup de cœur de fin janvier, début février, peut-être plus loin. Ça s'appelle Les Derniers Parisiens. Oui. Amé Ekoué, La Rumeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes les auteurs, réalisateurs de ce film. Atmen, qu'est-ce qui vous a frappé en premier lieu dans Les Derniers Parisiens ?
Moi déjà, c'est un film qui m'a donné confiance, je me suis dit, voilà, avec une vraie histoire, de vrais personnages, on peut relancer le cinéma français. Voilà, j'emploie une mot très très fort, j'ai vu un vrai petit bijou. Un petit bijou qui raconte un quartier, qui raconte l'histoire de deux frères, deux galériens, comme ceux qui vivent à la petite semaine, et on est vraiment dans un suspense incroyable de savoir comment leur vie va changer, comment elles vont basculer avec un règlement de compte entre eux, parce qu'ils n'ont rien résolu, ces deux frères-là. Alors il y en a un qui est un petit truand qu'on croit très très dur, qui est joué par Reda Kateb et qui va basculer vers quelque chose. En fait, les personnages vont changer. Ils vont changer devant nous dans ce suspense-là qui est incroyable. Et on est vraiment dans un Paris qu'on adore, dans le Paris du 18e. Et sans faire de parabole, je trouve que ces deux auteurs qui sont là sont des peintres. Voilà. Par petites touches comme ça, ils ont essayé de raconter à un moment donné cette histoire. Ce sont deux Algériens, apparemment dans le film, comme ça, qui vont nous raconter vraiment l'envie de réussir, l'envie d'être parisien, de tenir comme ça dans un Paris très difficile en ce moment. Et on est avec eux, on se projette, on a envie que ça marche. Ça n'a pas forcément marché, mais ils vont régler leur compte dans une tendresse, dans un film qui s'annonce comme un policier, mais qui est en fait une vraie histoire d'amour entre deux frères. Et c'est très drôle. C'est plein d'action, sans qu'il y ait un coup de feu, mais c'est un film très tendu par les acteurs, par Reda Kateb et Slimane Dazé, qui sont incroyables. Voilà. Et c'est un film qui ne va pas vers une espèce de complexe comme ça de l'ethnie. C'est ça que j'ai adoré. Et on n'est pas là, on sort pas un tapis, on fait pas la prière, ils ne partent pas en Syrie. C'est vraiment deux galériens, deux trucs. Un type qui tient un petit café qu'on croit qu'il est faible, qui réussit, et l'autre qui derrière, qui sort de tôle et qui, voilà.
Messieurs, est-ce que
Les mots s'embrouillent, mais vous verrez que derrière, il y avait vraiment, j'ai eu un coup de foudre pour ce film-là.
Est-ce que vous reconnaissez votre film par la description qu'en fait Atmen?
Bien au-delà.
Si on avait su que c'était si bien, alors
on aurait pu. Merci beaucoup. Ce qu'on s'est forcé de faire, c'est mettre comme ça de jouer dans ce à Pigalle, dans cette partie-là de Paris. Voilà, des choses qui, à notre sens, sont rarement ou très peu mises en scène de cette manière-là. Il fallait rendre hommage à une faune et à un bout de Paris qu'on a, voilà, dans lequel on a usé nos guêtres et fait nos classes. La rumeur est née sur ces trottoirs-là, sur ces bancs-là. Et donc ce que vous dites du film nous touche profondément.
Ah ouais, non, moi, je pense que c'est... Enfin, je t'écoutais là, tout à l'heure, Atmen, ça fait vraiment très très plaisir. D'autant que c'est très précis ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que de la première à la dernière phrase de ta présentation du film, je pense que c'est le meilleur résumé qu'on puisse faire du film. Déjà, c'est un peu le sentiment que j'avais eu à la sortie de la Projo quand on vous a montré le film, et je suis vraiment très ravi que le film soit perçu comme ça, quoi. Nous, vous savez, on a 20 ans de carrière et on a le sentiment que dans la musique, on a fait quelques expériences aussi dans l'image, on a le sentiment que voilà, ce film, c'est vraiment le point culminant de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a voulu raconter un peu, en partant du pavé, sans outrance, et en mettant en scène des gens qu'on aime, un quartier qu'on aime, et voilà, surtout dans le contexte actuel. Et je trouve que c'est dit comme ça, avec ces mots, c'est...
Donc La Rumeur, ça a 20 ans. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, au lieu de faire passer le message ou les émotions en musique ou en chanson, on décide d'en faire un film?
C'est un appétit pour cet art, quoi, d'abord. J'allais dire que c'est la musique et le cinéma, c'est de l'image, c'est presque la même chose. En tous les cas, on s'est forcé d'abolir une façon, notre façon de concevoir le cinéma, et le puise directement ses sources dans ce qu'on fait depuis 15-20 ans dans la musique, et le geste qu'on s'efforce de parfaire à chaque fois qu'on aborde un film ou un travail sur ce plan-là, on essaie d'en faire une espèce de prolongement avec ce qu'on a appris de mieux, en mettant le live, le goût de la prise directe, du plan séquence, le travail avec les comédiens. Donc les comédiens sont tous des amis
bien avant de se lancer dans l'aventure d'un film.
Reda Kateb, Slimane Dazi. Dites-moi, Amé, quoi est la rumeur? Vous, comme spectateur, qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui vous a autorisé à faire du cinéma? Moi, je me dis qu'il y a des gens, il y a une génération, elle a vu Cassavetes, c'est « Tiens, moi aussi, je peux essayer de faire du cinéma ». Est-ce qu'il y a des films qui vous ont libéré, qui vous ont donné envie de prendre la caméra?
Bah, c'est vrai que déjà, dès le début 2000, on a collé un peu à l'image du groupe, un peu le ciné, une espèce de... On a beaucoup samplé des films des années 50, français notamment. Gabin, enfin touche pas.
Ça se voit beaucoup. Des films de Pigalle des années 50.
Voilà, c'est ça. Il y a du Bob le Flambeur dans votre film, incroyable.
Le Melville.
Le Melville, on voit, voilà. Quand Pigalle se réveille le matin avec Bob le Flambeur dans votre film, il y a que des références bizarres, vraiment. C'est un film très français, il faut le dire aussi. C'est-à-dire, il ne va pas chercher des parallèles qu'on a pu voir dans les films américains, dans Tarantino. Il y en a aussi, mais il y a beaucoup de références comme ça, souterraines. Et on se dit qu'en France, on peut raconter une histoire aussi violente que ce que les Américains. C'est très western, votre film, et c'est ça qui est bien aussi.
Et sur la langue, alors, sur la façon de dialoguer, c'est inspiré aussi entre une langue d'aujourd'hui et une langue inspirée d'un argot de ces années-là?
Bah, y a un peu des deux, la génération de Slimane, qui a un peu, lui qui a en vrai, et à peu près, et dans le film, un peu plus d'une cinquantaine d'années, bon, il y a tout un phrasé un peu titi, comme ça, qui revient. Puis après, la génération de Reda, donc de Nas, le personnage du petit frère, voilà, il est plus emprunt des codes de notre génération, quoi. Mais... tout ça cohabite assez bien, je trouve. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a, comme le disait Atmen, c'est une vraie histoire de France. Il y a quelque chose de façon, pas forcément, je veux dire, préméditée, mais qui rend hommage de façon tout à fait naturelle à Paris, et évidemment au-delà, quoi. Parce que c'est à travers voilà, cette histoire de ce bar coincé entre Métro Blanche et Pigalle. On essaie de s'efforcer finalement de raconter quelque chose de plus, j'espère, de plus universel.
Vous avez des bonnes voix du matin, les gars, des bonnes voix à grain, des voix d'avant café, d'après gitane. Restez avec nous. Les derniers Parisiens, ça sort le 22 février, c'est le film de la rumeur.
Le titre est parfait pour le film.
Et commencez à faire la queue devant les cinémas, parce que là restez avec nous, parce qu'on va parler de ce que vous faites aussi au rond-point bientôt. Voici Thierry Paret, il est 8h01. Service droit, allez.
Deux hommes sont entrés hier soir dans le centre culturel islamique de la ville de Québec, au Québec, et ont ouvert le feu sur les fidèles qui priaient. Le bilan provisoire fait état de 6 morts, une dizaine de blessés. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, parle d'un attentat terroriste. Deux suspects ont été interpellés. Ce n'est pas la première fois que le centre culturel islamique de la ville de Québec est pris pour cible. L'an dernier, une tête de porc avait été déposée devant l'une des portes du bâtiment. Donald Trump gouverne à coup de décret depuis son investiture, mais aucun n'aura fait autant de bruit, aucun n'aura suscité autant de critiques que celui sur l'immigration qui a été signé donc vendredi. Un décret qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen. La mesure a provoqué un véritable tollé à travers la planète. Des milliers de manifestants ont défilé hier à Washington, Los Angeles, San Francisco pour ne citer que ces villes. New York également. À New York d'ailleurs et en Virginie également, des juges fédéraux ont réussi à imposer un sursis à ce décret de Donald Trump après de nombreux recours déposés par des associations. Et partout dans le monde, ce week-end, des ressortissants des pays concernés par le texte, ce décret, se sont retrouvés bloqués dans les aéroports ou ont été renvoyés vers leur pays d'origine. Air France a annoncé avoir retenu une quinzaine de personnes devant se rendre aux États-Unis. Benoît Hamon, 59%, Manuel Valls, 41%, c'est plié. Donc c'est Benoît Hamon qui va représenter le Parti Socialiste à la présidentielle. 1,9 million de personnes se sont rendues aux urnes pour élire Benoît Hamon. C'est plus qu'au premier tour, mais c'est moins qu'en 2011. Benoît Hamon a proposé d'ores et déjà à Yannick Jadot, le Vert, et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise de construire une majorité gouvernementale. La Française Iris Mittenard, 24 ans, a été élue aujourd'hui Miss Univers à Manille, devançant ses concurrentes Miss Haïti et Miss Colombie. On le sait, certains coureurs cyclistes ont eu recours à des moteurs miniatures dans leur vélo. Quelques affaires ont été révélées au grand public ces dernières années. Eh bien, il se pourrait bien que le phénomène soit beaucoup plus répandu que ce que nous pensions, et surtout depuis bien plus longtemps. Un ingénieur hongrois qui a inventé un moteur miniature pour vélo affirme que de tels artifices sont utilisés par certains coureurs professionnels depuis 1998. Certains modèles entreraient en action lorsque le rythme cardiaque du coureur dépasse un certain seuil. 3 fois vainqueur du Tour de France, l'ancien coureur américain Greg LeMond affirme ne plus croire en aucune victoire du Tour de France tant qu'il n'y aura pas plus de contrôle. Le mondial de handball, l'équipe de France a donc remporté sa compétition en battant la Norvège en finale hier 33 à 28. C'est son sixième titre mondial. La fin hier soir, la 22e journée de Ligue 1 de football, le PSG et Monaco se sont séparés sur un match nul, un partout. Au classement, Monaco est en tête, Nice est deuxième. Ils ont tous les deux le même nombre de points, 49. Le PSG est troisième avec 46 points. Et puis la CAN, suite et bientôt la fin. La Coupe d'Afrique des Nations, donc les demi-finales opposeront mercredi le Burkina à l'Égypte et jeudi le Cameroun au Ghana. Hier, l'Égypte a sorti le Maroc, un but à zéro. Et puis le Ghana a sorti la République démocratique du Congo, 2 à 1.
Christophe, je vous vois vous inquiéter parce que vous me dites j'ai un petit moteur à mon vélo, mais vous avez le droit, vous.
C'est-à-dire ?
Parce que vous n'êtes pas inscrit au Tour de France, vous.
Oui, mais si je veux faire le Tour de France.
Non, mais de vous prendre un autre vélo.
C'est-à-dire sans moteur ?
Ben là, voilà, parce qu'Atmen, vous êtes un scooter. Vous,
oui, oui, ça s'appelle un scooter, mais moi j'avais droit à mon petit, petit moteur. Parce que j'y ai droit quand même, mon petit moteur. Au départ, même si j'ai pas du vélo. Non, j'ai droit ou j'ai pas droit ?
Il a pas le droit.
Voilà.
Voilà, c'est dit.
Aïe, 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 aïe.
Même en bas, les petits moteurs.
Voilà.
Même des fois, j'en ai fait des triples. Hein.
C'est-à-dire des triples ?
Ça veut dire que des fois, je faisais du gardiennage de nuit. Ben, si. Quand
en plus des vitres ?
En plus des vitres et de la ville de Paris, parce que j'étais surendetté et il fallait que je trouve des solutions.
Ben là, et là, c'est tout trouvé. Là,
ben là non, c'est pas trouvé. Hein. J'ai plus de dettes, grâce à Dieu, mais bon.
Parce que la rue Saint-André-des-Arts. Vous allez démarrer la vitrine du restaurant, là ?
Oui.
Avec les petits... comment ça s'appelle ?
Les raclettes.
Les raclettes. Ouais.
Les raclettes. Et puis le petit escabeau.
Non, l'échelle, parce que c'est un trois plans. Là, c'est le deux plans. Ouais. J'en ai à l'intérieur.
Pas glisser, quoi. Ouais. Faut pas que ça glisse sur la vitre, quoi. Faut le...
Mais non, bah, ça risque pas, là. Ouais. C'était la semaine dernière que c'était dangereux. Là, aujourd'hui, ça risque rien.
Ah, si vous parlez du sol, à cause des sols qui étaient gelés, ouais. Mais sur la vitre elle-même, le bout de l'échelle, elle
non,
est...
Non, il est en caoutchouc et on se met toujours sur un endroit bien précis où, où la pression ne risque rien.
Il n'y a pas un collègue qui tient l'échelle ?
Non, ah non, on peut pas.
Et les deux autres qui sont partis, c'est pas les collègues ?
C'est les collègues de la ville de Paris, mais pas des vitres.
Vous n'êtes pas ?
Ah non.
Ils ont dit qu'ils étaient en grève aujourd'hui.
Oui, apparemment, il y a grève. Moi, je n'étais même pas au courant.
Ouais, non, ça ne veut pas ça.
C'est nouveau ?
C'est la grève.
Le problème de la ville de Paris, c'est que les informations n'arrivent pas au même endroit partout.
Ouais.
Je vais vous donner un exemple. Ici, aujourd'hui, ils sont au courant. Peut-être que demain, les autres vont être au courant. Dans le 7e, demain, on sera peut-être au courant qu'il y avait une grève aujourd'hui. Parce que comme là, normalement, on a un intranet, et on devrait avoir des affiches, mais personne ne s'en occupe. Les chefs d'équipe, ils n'ont rien à foutre. Ce n'est pas leur problème, c'est aux gars de se renseigner. Ouais. Si les syndicats ne font pas leur boulot de prévenir leurs adhérents, comment voulez-vous que nous, on soit au courant ?
Vous ne voulez pas vous en occuper, vous ?
Moi, j'ai arrêté de faire du syndicalisme il y a une dizaine d'années.
Ah oui, non, ça va.
Mais si vous me donnez le petit bureau, je peux peut-être y aller, moi.
Non, c'est pas comme ça. Faut pas... Non, c'est pas comme ça, Thomas.
Pas comme ça, je suis pas...
Jack, non. Mais après, ça remonte peut-être à Madame Hidalgo qui ne veut pas circuler l'un dans l'autre. Peut-être après, les chefs de service qui ne régurgitent pas, je dirais, qui ne font pas rebondir l'information, qui ne parvient pas après au...
Oh ben voilà, c'est ça le problème.
Oui.
C'est fait exprès d'ailleurs. Hein.
Peut-être, ouais.
Ah oui.
Enfin bon, peut-être que c'est créer un peu de bordel pour après que le roi tire les ficelles de la marionnette qui apprécie. Ouais.
En tout cas, là, vous avez les mains dans les poches, bossez pas trop.
Bah non, parce que je vous parle, je peux pas faire les deux.
On peut pas faire les deux choses l'une, Jack, souvent là.
Mais alors, de bosser, c'est ça.
Ouais, légèrement.
C'est une eau qui est savonneuse, qui est pour nettoyer la vitre. Qu'est-ce que c'est comme produit ? C'est un produit.
Alors. Moi, je mets un mélange.
Oui, je vais noter.
Je mets un peu d'humire.
Oui.
Et je mets un peu d'alcool à brûler.
Oula, mais c'est pas du mire ammoniacal, c'est un mire.
Non, c'est le mire vaisselle.
C'est le mire vaisselle. Alors, mire vaisselle, alcool à brûler. Donc là, c'est un petit. C'est une petite tambouille maison, là, c'est un petit
voilà,
secret.
Voilà, tout à fait. Pourquoi je mets un peu de. Parce que comme il fait froid actuellement, ça évite que ça gèle dans les vitres.
Oui.
Et que ça me fasse des. Et en été, je mets que du mire.
Et quand il y a des trucs qui s'accrochent dans la vitre, si ou quoi, ou qu'est-ce, quelqu'un aurait mis un chewing-gum ou un truc, ça
part... C'est un grattoir.
C'est un grattoir en plus. On a la raclette et le grattoir, et là, on sent, bon an, mal an, on s'en tire.
Voilà.
Et ben voilà. Merci, cher monsieur.
De rien.
Et ben, on vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous aussi.
Il est sympathique, notre Jack, souvent, avec vous, là ?
Oui, il est sympa, votre
Jack. Ah oui. Moi, je préfère l'avoir au téléphone que dans le studio, je peux vous raconter. Bonne journée.
Allez, bonne journée.
Bon, salut les gars.
Attaquer, là. On va attaquer.
C'est plus clair pour tout le monde. Merci.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Alors que leur film Les Derniers Parisiens sort en salle le 22 février, la rumeur vous participez aussi à Nos Disques Sont Rayés, un événement colossal qui va commencer là au Théâtre du Rond-Point. Jean-Daniel Magnin, vous êtes avec nous et nous avons aussi en ligne, c'est vraiment un dispositif très sophistiqué qu'on a mis en place ce matin, Jean-Michel Ribes, le directeur du Théâtre du Rond-Point. Jean-Michel, ça va ?
Ça va très bien.
Jean-Michel,
on t'entend en matinale, c'est merveilleux.
Je sens chez vous une force tranquille ce matin. Vous êtes chez vous, vous êtes à la fois dans d'autres endroits, mais vous êtes au fond de vous-même en même temps.
Oui, et à la surface.
Oui, et vous faites des allers-retours de toute beauté entre l'intérieur et l'extérieur.
Oui, exactement.
C'est un art, c'est du travail ou c'est un don ?
C'est à la fois un don et c'est surtout une étoile qui m'habite, qui fait qu'elle m'éclaire et qu'elle éclaire dehors aussi.
C'est très beau ce que vous dites, Jean-Michel. Je sais que cette étoile continue à briller même lorsque le soleil est là.
Absolument.
Si vous avez la gentillesse de... Vous... Pardon ?
Oui. Non, je veux dire, c'est vous qui l'attirez aussi, il faut dire.
Alors après, on y reviendra. Après, c'est évidemment, on tire les ficelles. Les politiques sont évidemment nos marionnettes. Jean-Michel, avez-vous la gentillesse de rester en attente ? Écoutez ce qui se dit sur l'événement. Nos disques sont rayés. Dites-nous si ça va à peu près en sortant.
Oui.
Jean-Daniel, ça vous met très à l'aise. Jean-Daniel qui organisait avec Jean-Michel Ribes, Jean-Daniel Magnin, cet événement. De quoi s'agit-il ? Nos disques sont rayés 15 jours sur les blocages français.
Alors, 15 jours sur les blocages français, effectivement. Ça commence, je donne un exemple, demain avec le Bondi Blog et Edgar Morin. Et ça se terminera vendredi et samedi dans 15 jours avec Atman Khelif qui est à ma gauche.
Il n'avait pas l'air de le savoir.
Alors, c'est l'idée il est en train de consulter la brochure, justement.
C'est très beau l'idée de résoudre des problèmes de société dans un lieu physique, au théâtre, plutôt que sur des médias.
Mais oui, parce qu'en fait, moi je dis que le théâtre, c'est une démocratie des avant-bras. C'est-à-dire que si le monde tombe par terre, les gens qui ne savent plus parler, à part la radio ici, savent qu'au théâtre, ils touchent de leur avant-bras leurs voisins. Donc peut-être que si le monde tombe par terre, on pourra le ramasser ensemble.
La présence physique de l'autre.
Oui. Alors l'idée, c'est de mettre dans un théâtre des gens qui viennent de partout, pas simplement les habitués du théâtre. Donc des gens qui viennent des deux côtés de la frontière, par exemple du périphérique.
Alors qu'est-ce qui va se passer par exemple ? C'est du 31 janvier au 11 février. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Qu'est-ce qu'on va entendre ? Qu'est-ce qu'on va voir ?
Alors il y a des cartes blanches, il y a des médias absolument libres. Donc vous n'avez pas pu être invité. Il y a eu Mediapart.
Non, mais entièrement vendu, comment il s'appelle déjà ? Mathieu Pigas, entièrement.
Alors il y a Fakir Press avec François Ruffin. Et le Bondi Blog dont je parlais, qui sera là donc demain, qui va écrire avec... le public présent, un article sur « Que ressentez-vous lorsque vous passez la frontière du périphérique ?» C'est pour ça que je disais ça. Il y a des penseurs qui ne sont pas toujours les bienvenus, comme Frédéric Lordon, qui sera là...
L'animateur de Nuit Debout.
L'animateur de Nuit Debout, qui sera là le mardi prochain, le 8 février. Donc Edgar Morin... Pascal Blanchard.
Alors, il y a beaucoup de choses, vous parlez autour de passer le périphérique d'un côté et de l'autre. Vous, la rumeur qui est un groupe de rap, un groupe de musique, de ce côté-là du périph, c'était... Comment vous ressentez ça, vous, cette frontière du périph, vous qui êtes du 18e ?
Bon, on la traverse, on la tourne, on sans la retourne, papier. On la détourne depuis des décennies sans
papier. Ouais.
Vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas de passeport pour passer le périph d'un côté et de l'autre ?
Carte famille nombreuse.
Mais est-ce que vous êtes très identifié comme un groupe musical de Paris intramuros ?
Non, parce qu'on est à la fois de banlieue et de Paris, quoi. Donc, voilà, on a le groupe est plus ou moins né à Paris, mais on vient de banlieue pour l'essentiel. Non, de Élancourt, 78.
Ah, d'accord. Et là, vous allez faire quoi pendant les disques sont rayés ?
Bah, on va mettre en place un...
Voilà, ce sera une surprise.
Ouais, ce sera une surprise, mais
ça sera samedi à 18h30, ce samedi.
Alors à propos de disques rayés, voici Charlène qui a fait un petit assemblage d'un disque qui tourne, un disque politique depuis plusieurs années.
Je rêve d'une politique où l'on soit attentif à ce qui est dit plutôt qu'à qui le dit.
Mesdames et messieurs,
j'ai décidé de
remettre la France en marche.
Mais aussi et surtout
la reconstruction de l'avenir.
C'est en pleine crise que nous devrons la mener.
La République, c'est un état d'esprit.
La République comme le moyen de reconquérir du pouvoir.
Je chercherai avec vous.
Tout ce que je ferai, je le ferai avec vous. Je vous propose de poser les bases.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau, d'une démocratie mieux équilibrée et plus transparente.
un monde plein d'énergie, plein de vitalité.
Mais pour que ce soit une véritable fête, ça doit être à travers les jeunes que nous pourrons réussir cet événement.
Oui, on l'entend, on tourne un peu en rond. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'une des façons de tourner en rond est de parler du système, d'anti-système, contre le système anti-système. Quel est ton système, Thomas Baumgartner?
Oui, Édouard Baer, bonjour.
Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller, vous, au Théâtre du Rond-Point?
C'est une histoire de son, c'est une histoire de paroles, les disques qui sont rayés. Donc, c'est en tout cas une question qu'on peut se poser, c'est aussi réinventer, en tout cas tenter de parler autrement, tout simplement, de politique. C'est ça, non, Jean-Daniel Lemagnien?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de voix, nous on avait fait un petit teaser du même genre avec des voix d'hommes politiques et on s'aperçoit que à part Marine Le Pen, la plupart ont déjà été dégagés. Alors c'est pas pour dire que la politique est quelque chose d'indigne et dont il faut se débarrasser, bien sûr, mais il y a des vieilles recettes qui ne marchent plus et on voit que des ubus prennent le pouvoir dans des pays actuellement qui pensent qu'il suffit de changer le sens des mots et la réalité pour résoudre les problèmes. Peut-être que on doit se rapprocher plus des citoyens, du peuple, qui sont devenus tellement intelligents actuellement, qui savent tellement de choses, n'est-ce pas, Édouard, que peut-être ils peuvent gérer aussi un peu la complexité sans la donner à un seul homme.
Qu'en dit Jean-Michel Ribe dans sa robe de chambre?
Moi, je dis que tout ça est nécessaire. C'est un moment d'oxygénateur, c'est un grand aspirateur pour ce qu'on veut faire dans notre ADN de bateau pirate. Je ne sais même pas si on doit donner des leçons, des conclusions, de dire que la politique est bien et pas bien. Je crois qu'il faut, par le rassemblement de tous ces gens, cette mosaïque de gens qui cassent un tout petit peu le raisonnement et qui pensent, parce que ce qui empêche la pensée, c'est le raisonnement. Et on est dans un monde de raisonnement, de logique, d'un cadavre exquis, extrêmement bien construit. Et je pense que c'est une bouffée d'air. C'est comme si on sautait dans un vide qui va nous faire découvrir d'autres planètes. Moi, je trouve que ces disques sont rayés. C'est plutôt un moment où on jette les disques plutôt qu'on essaye de les faire marcher à nouveau. Voilà. J'ai l'impression que tous ces gens vont venir, vont faire une espèce de détonateur qui va peut-être écarter la bouillie, le brouillard, le brouillon dans lequel on vit et qui est absolument épuisant.
Quand dit Écoué de la rumeur?
Je suis d'accord.
Quand dit Marie Missé?
Ça tombe bien, c'est exactement ce dont je vais parler dans la revue de presse.
Ah c'est très bien. Quand dit Tito?
Mais c'est très bien, c'est justement ce dont je vais parler dans la revue.
Les amis, qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai Gérard Mordilla, qui finit avec Jean-Damien Barbin, Patrick Mille et moi-même,
oui,
dans une espèce de pièce apocalyptique où Marine Le Pen aurait pris le pouvoir.
Qui te donne la parole?
Moi, je la prends
non,
moi-même.
Non, ne prends pas la parole.
Si, parce que les disques sont rayés, c'est de la résistance, monsieur.
Mais la résistance à quoi?
La résistance
à toute
la connerie qu'il va y avoir entre les deux tours, on a besoin de la vraie parole.
Allez, je peux plus supporter. Alors c'est au rond-point à partir du 30 janvier jusqu'au 11 février, il y a plein de spectacles dans les soirées. Ça commence demain. Je suis là avec Armel. La rumeur.
Il y a
donc,
Jean-Michel qui veut parler.
Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? Ah, j'ai plus de casque, moi. Je me suis levé de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Michel?
Édouard, oui. J'ai remarqué que je suis à peine intervenu et tous tes collaborateurs ont dit que c'est exactement ce que je voulais dire.
Bien sûr.
Tu ne devrais pas m'appeler plus souvent le matin.
Oui, mais j'ai l'impression que les gens rêvent d'être inféodés. Il y a une envie de vassalisation. Les gens ont envie d'un guide, d'un chef. C'est le problème de la démocratie française. On cherche quelqu'un pour la casser, cette démocratie, et prendre le pouvoir. Je crois qu'on a envie de se trompiser.
Oui, mais tu sais ce que disait Alphonse Allais? Il disait le meilleur des systèmes, ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature tempérée par l'assassinat. Mais il faut y réfléchir à ça.
Jean-Michel, on t'embrasse, je sais que tu es d'accord avec toi-même, mais pas tous les jours.
Si, mais avec toi, à peu près un jour sur deux, les pères.
Très bien, moi je ne représente que moi-même, et encore pas ce matin. Merci Jean-Michel, merci à tous, à la rumeur au Théâtre du Rond-Point, merci à tout le monde et à ceux qui se remercient.
Et on a fait une double rubrique, on a aussi réveillé un monument en même temps.
Qui vous donne la parole?
Moi-même je la prends.
Ah oui, c'est vrai.
On a réveillé un monument, Jean-Michel.
Salut Jean-Michel, salut à tous. Musique, publicité, tout ce que vous aimez. Hey, Marie Missé, vous êtes de la famille de Miss France ou pas du tout?
Peu. Enfin, on a quelques accointances phonétiques, mais c'est tout.
Très bien, ça me va.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie?
Misset.
Qu'avez-vous découvert dans la presse au Marie Misset ce matin ?
Oh bien des choses qui vont aller avec ce que disait Thomas Baumgartner tout à l'heure sur les disques qui sont rayés. Rayés ou rayés d'ailleurs. Au lendemain donc de cette primaire de gauche remportée par Benoît Hamon, c'est difficile de l'ignorer ce matin, Le Monde Week-end confirme un secret de polichinelle. Les plus précaires, un, ne votent pas, je cite, c'est une population qui s'exprime peu, manifeste peu, vote peu. Deux, quand ils votent, eh bien ce n'est plus pour la gauche. En 2012, François Hollande remportait encore leur suffrage face au, je cite, président des riches, Nicolas Sarkozy. En 2015, la politologue Nona Mayer constate un basculement absolument spectaculaire de ce public vers le FN. Attention, précise l'article, le procès est vite fait. Parmi ceux qui ne votent pas, le lien avec la politique est cependant loin, loin d'être rompu. Et cet article du Monde, il va un petit peu dans le sens de l'édito du tout nouveau Uzbek Erika. C'est un magazine intitulé La gauche LOL. C'est sur une gauche en mal de repères et surtout une gauche en mal de définition. Thierry Keller, Blaise Mao et Uzbek Erika en entier y enterrent toute la gauche, dont celle tuée par les fins de la révolution industrielle qui a enterré en même temps la lutte des classes. Sans l'intime conviction, je cite, d'appartenir à la même équipe que son camarade, pas de mouvement de masse pour réclamer le changement social. La troisième révolution industrielle, disent-ils, et son corollaire, la civilisation numérique, atomise le salariat, détruit les institutions, individualise les codes culturels. Elle remplace le un pour tous et tous pour un par le chacun sa merde. Compliqué donc de créer un esprit de corps. Et Alain Damasio, qui est un formidable écrivain de science-fiction, qui est cité plus tard dans Uzbek Erika dans un article sur les écrivains de science-fiction et leur rapport au futur, cisèle un petit peu la pensée qu'on sent poindre dans cet édito en montrant que cette conscience a disparu en même temps que son vocabulaire. Cette conscience a disparu du vocabulaire, il n'y a plus d'exploitants ni d'exploités. Le langage, dit Alain Damasio, fondement de nos liens sociaux, est menacé. Et il a écrit une nouvelle assez chouette, enfin qui a l'air bien, sur la privatisation des mots. Alors il est parti d'une réalité dans laquelle le mot orange est devenu une marque, alors que c'est quand même une couleur et un fruit avant tout. On y trouve des résistants de l'altermonde dans cette nouvelle qui tentent de sauver mots rares et dialectes en bâtissant une bibliothèque vivante. On croise notamment un poète qui est prêt à se prostituer pour acquérir le mot discourtoisie.
Donc, de privatiser les mots, oui, c'est bien.
Contre don d'un mot, Alain Damasio est formel. Sans les mots pour résister, la résistance peut disparaître. Et c'est marrant parce que ça rentre totalement en résonance avec un article publié, attention, sur France Culture, coucou la concurrence, qui part de la phrase de la porte-parole de Donald Trump. Vous saviez qu'Eliane Conway, qui a dit qu'elle présentait des faits alternatifs quand Trump hurlait qu'il n'y avait eu jamais eu autant de monde à une investiture et que la réalité des images hurlait le contraire. Autrement dit, elle a tordu le langage pour que les événements deviennent conformes à la réalité qu'elle voulait. Et c'est ce qui a relancé incroyablement les ventes de 1984 aux États-Unis de George Orwell, qui a inventé la novlangue. La novlangue ayant pour ambition d'appauvrir la langue, de lui retirer du vocabulaire pour qu'on ne puisse plus critiquer le système totalitaire d'Océania, selon l'idée chère à Boileau qu'il est difficile de concevoir quelque chose si on ne peut pas le dire. On va donc simplifier et supprimer la moitié des mots. Le guériton n'existera plus.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
Tout à fait. Seule la table survivra. Le Washington, d'ailleurs, en remettait une couche la semaine dernière en expliquant dans un article repris sur Big Brother du Monde à quel point il était compliqué de traduire la pauvreté du vocabulaire de Trump, à tel point c'était un casse-tête pour les traducteurs qui ne savent pas s'ils doivent ou non retranscrire cette pauvreté. En tout cas, la richesse de vocabulaire en voie de disparition, donc bien présente en politique, que l'expression élément de langage traduit bien. En revanche, ce plaisir de la langue, il est encore très visible dans les pages sport de nos journaux. En témoignent, comme je vous le disais tout à l'heure, les envolées lyriques ce matin dans le Parisien sur la performance des handballeurs français. Le récital de ces experts s'est transformé en marche des empereurs, lit-on. Cette équipe partie flâner dans des contrées jusque-là inexplorées pour décrocher le soleil. Le vocabulaire a peut-être changé d'arène.
C'est magnifique cette idée qu'entre la vérité et le mensonge, il y a quelque chose qu'on appelle la vérité alternative. C'est ce qu'invente le gouvernement Trump en ce moment.
Pouvoir de l'imagination.
L'alternatif. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
ça, on en a de la pub, hein, on va pas se mentir. On en bouffe
de la bagnole.
Ça, on en bouffe. Rudy, qui se prépare à côté dans le live ce
Mustang,
matin?
Edouard, Mustang.
Encore une voiture.
Voilà, c'est ça.
Excellent.
Si j'avais pas assez de pub.
Ça, c'est
Batman, je reviendrai. Présenter les groupes en studio. Ouais,
vraiment, bravo.
Ça me ravit. Mustang, un groupe qui a la base et de Clermont-Ferrand. Ça fait 10 ans qu'ils sont à la scène à moitié entre chanson et rock. Mais justement, c'est pas incompatible. Ils viennent de sortir un morceau qui s'appelle Salaud de pauvre, qui est une référence directe à la fantastique saillie de Gabin dans la traversée de Paris.
Marcel Aimé, ça.
Exactement. Salaud de pauvre. Ils boivent leur vin au bout.
Et dites-moi, ils en ont pas marre qu'on dise qu'ils viennent de Clermont-Ferrand? On va pas les emmerder toute leur
non,
vie.
Non, on va pas les emmerder là-dessus. Ouais, mais comme on est écouté à Clermont-Ferrand et qu'ils ont vachement été aidés par une salle qu'on adore qui s'appelle la coopérative de Mai, ça a un peu de sens de le dire.
Parce qu'on vient tous de Clermont-Ferrand, puis un jour on vient de Clermont-Ferrand. Oui, mais on adore Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous de quelque part? Je veux dire qu'on vient tous de quelque part, on va pas nous le rappeler toute notre vie. Mais on va pas rappeler tout le temps. Ahmed Kelly, vous qui êtes d'origine algérienne, tu t'en fous. Tu
ah bon?
Va pas t'emmerder. Il fallait pas lui dire.
Il est d'Albi.
Bon, Rudy, oui, alors vous qui êtes albigeois, vous êtes algéro-albigeois.
Vous, Edouard Baird, qui êtes du 6e, alors reparlons-en.
Tout ça est aboli maintenant, je me réinvente chaque matin. T'as du 6e siècle. Alors tout de suite, le journal de Thierry Paret.
Radio Nova.
Et de la Mustang au cambriolage, il n'y a qu'un pas. 65 blessés, dont quand même 3 graves, même très graves. C'est le bilan d'un carambolage tôt ce matin sur la 13. L'accident s'est produit dans le sens province Paris à hauteur de la commune d'Épône dans les Yvelines. La circulation a bien évidemment été coupée. Un important dispositif de secours a été déployé. Un gymnase a même ouvert à Aubergenville pour accueillir les blessés légers. Les agressions visant la communauté musulmane se sont multipliées dans la province de Québec ces dernières années, mais aucun n'avait abouti à des morts. 2 hommes sont entrés hier soir dans le centre culturel islamique de la ville de Québec et ont ouvert le feu sur les fidèles qui priaient. Le bilan provisoire fait état de 6 morts, une dizaine de blessés. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, parle d'un attentat terroriste. Sans en dire plus, 2 suspects ont été interpellés. Le cinéaste iranien Asghar Farhadi, nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger, ne se rendra pas à la cérémonie de remise des prix. Il a décidé de boycotter l'événement pour dénoncer le décret de Donald Trump sur l'immigration. Signé vendredi, ce décret interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. Des milliers de manifestants ont défilé hier à Washington, Los Angeles, San Francisco, New York pour dénoncer ce décret. Partout dans le monde, des ressortissants des pays concernés par le texte se sont retrouvés bloqués dans les aéroports ce week-end ou ont été renvoyés vers leur domicile, vers leur pays d'origine. Air France a annoncé avoir retenu par exemple une quinzaine de personnes devant se rendre aux États-Unis. Benoît Hamon propose à Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, et Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, de construire une majorité gouvernementale. C'est donc Benoît Hamon qui représentera le Parti Socialiste à la prochaine présidentielle. Il a largement devancé Manuel Valls avec 59% des voix contre 41% pour l'ancien Premier ministre. Commandé en 2015, le dernier rapport de la National Oceanic and Atmospheric Administration sur l'élévation du niveau marin a été discrètement publié sur le site internet de l'agence. Il est pourtant d'une singulière importance. Il montre que les côtes américaines, en particulier sur la façade atlantique, sont parmi les plus vulnérables au monde à la montée des océans. Selon les calculs des chercheurs, le pire scénario correspondrait à une élévation de 2,5 m le long de ces côtes d'ici la fin du siècle en cours. On parle bien du pire scénario, hein, pas forcément celui qui va arriver. La française Iris Mittenard, 24
ans. Vous pouvez parler
ans.
Du meilleur de temps en temps. De temps en temps, on peut évoquer le meilleur scénario.
Bah, le meilleur, ça pourrait ne pas monter, mais bon, il y a quand même peu de chance. Hein. La française Iris Mittenard, 24 ans, a été élue aujourd'hui Miss Univers à Manille, devançant ses concurrentes.
On a Miss gagné, on est Miss Univers, et 1, et 2, et 3, 0, on est Miss
Univers.
Elle
est comment, elle est jolie ou pas?
J'ai envie de te répondre à sa beauté intérieure, elle a un foie superbe, c'est magnifique, elle a du
elle a deux bibliothèques,
a priori une très belle dentition puisqu'elle est étudiante en bucco-dentaire, je crois.
Les chaussures sont les plus mal
chaussées. Le mondial de handball, l'équipe de France a donc remporté sa compétition en battant la Norvège en finale hier soir 33-28, enfin c'était en soirée on va dire. C'est leur 6e titre. La fin de la 22e journée de Ligue 1 de football et le PSG Monaco qui se sépare sur un nul un partout. Au classement, Monaco est en tête, Nice est 2e, le PSG est 3e. La CAN, enfin pour finir, la Coupe d'Afrique des Nations. Les demi-finales, elles opposeront mercredi le Burkina Faso à l'Egypte et jeudi le Cameroun au Ghana. Hier, l'Egypte a sorti le Maroc, 1-0, et puis le Ghana a sorti la République démocratique du Congo, 2-1.
Météo.
Tout nu et tout bronzé, lailo, 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 lailo. Alors aujourd'hui, il
pleut. Il pleut dans la moitié de la France. Et de l'autre côté, il y a quelques nuages et le petit soleil qui paraît. Alors pour les températures, à Sedan, il fait entre 2 et 5. À Lille, entre 7 et 9. À Cherbourg, entre 9 et 12. À Brest, entre 11 et 13. À Tours, entre 7 et 13. À Bourges, entre 4 et 11. À Lyon, entre 3 et 11. À Nice, entre 7 et 14. À Nîmes, entre 8 et 12. À Toulouse, entre 7 et 14. Et à Paris, entre 5 et 11.
Et tout bronzé, merci.
Tu vas commencer par aller te rafraîchir un tout petit peu ta voix.
Ouais, j'ai couché tout nu.
Jacques, souvent, vous en êtes où ?
Il en est
nulle part. Ah, pardon.
Ça arrive.
Il est pas là ?
Allô ?
Oui.
Jacques ?
Vous m'entendez ?
Oui.
Ah, c'est marrant parce qu'on s'entend aussi dans le Uber. J'ai pris un Uber avec David qui était. On était rue, je sais pas, rue Dauphine. Et puis il était à une terrasse de café en train de zapper sur son portable. Alors je suis arrivé, il était en train de regarder un appartement à une patate 100 à acheter dans le quartier. Mmh. Et là, il attendait son Uber, je suis monté avec lui. On est en direction de Saint-Denis. David, qu'est-ce qu'on va faire à Saint-Denis ?
On va travailler. Oui, je travaille là-bas. Vous voulez savoir ce que je fais précisément ?
Bah, non, si vous voulez. Non, c'est pas grave, on va parler de votre cravate.
J'ai édité des livres. Ouais, j'essaye. C'est pas très facile, mais en ce moment, c'est assez excitant.
Quel type de livre ?
Tout type de livre. Tout type de genre, tout type de livre. Et y compris vous, si vous avez quelque chose à raconter, je peux vous éditer.
Oh la vache, mais j'ai plein de trucs à raconter, moi.
Restez en ligne, restez ensemble, avancez dans ces histoires d'édition de livres. L'axe Saint-Germain-des-Prés-Saint-Denis, c'est l'avenir de demain. Au
Exactement.
Même moment, nous partons quelques instants à Tours, où Allo Bamboule a livré une fête samedi soir. Allo Bamboule, c'est une association, les établissements Cocktail Pueblo. Chaque année, ils livrent des fêtes comme on livre des pizzas. Comment ça s'est passé, Michel Funken, samedi soir ? Bonjour.
Eh bien, cette année, Allo Bamboule a encore fait son office. Donc, est-ce que vous m'entendez déjà ?
Oui, combien d'appartements visités samedi
Alors,
soir ?
Nous avons fait 5 lieux différents.
5 lieux, 5 livraisons de fêtes.
Exactement. On a commencé par des locaux qui sont des bureaux.
Oui.
Donc, un espace un peu de travail.
Donc, Allo Bamboule est arrivé avec ses boissons, ses musiciens dans des bureaux et ensuite ?
Ensuite, on s'était dit que c'était l'occasion de projeter un PowerPoint avec, bien sûr, des gestes qui sauvent. Comment mettre un chapeau pointu ? Comment jeter les confettis ? Pas dans la bouche, par exemple.
Bien entendu. Donc là, vous êtes arrivé à quel endroit ?
C'était le quartier Blanqui, un quartier pittoresque et accueillant du Vieux Tour.
Le Vieux Tour. Faites le tour du Vieux Tour. Quel est le troisième lieu visité par Allo Bamboule lors de ces livraisons de fêtes ?
Nous sommes partis rue de la Sellerie. Donc là, on est proche d'un quartier historique, peut-être les Beaux-Arts de Tours, pour ceux qui connaissent le Cèdre du Liban.
On reste dans le tour accueillant, le tour charmant, le tour
Exactement.
Touristique. Quel est le quatrième lieu ?
C'est à la fois du tourisme et de la culture.
Bien sûr.
Eh bien là, figurez-vous que nous sommes arrivés directement en 2137, dans une bamboule du futur,
oui.
Où Kojima, Alstom et Fessenheim, trois personnages étonnants, venus du futur, nous ont expliqué un peu comment ça allait se passer les bamboules dans le futur. Nous avons dansé avec eux sur ce qui ressemblait étonnamment à de la musique de fax.
La musique de fax.
Notamment des danses catastrophiques comme la danse du Titanic.
La musique de fax.
La salle se penche à droite ou à gauche.
Voilà, à ne pas confondre avec les danses de Mail. Quel est le dernier lieu visité par Allo Bamboule le samedi soir à Tours ? Vous êtes donc arrivé avec des gens que vous avez trimballés de fête en fête.
C'est ça, de fête en fête. Après, parfois des concerts dans les appartements. Nous sommes arrivés.
Dans quel état déjà ?
Dans les locaux du Parti communiste.
Vous étiez dans quel état ?
Nous étions peut-être.
Lamentable.
On peut dire que c'est peut-être une expérience qui vous change la vision du monde. Et qui la change peut-être en version peut-être un peu plus floue,
oui.
Peut-être un peu plus serrée sur les côtés.
Le monde est flou. Comment avez-vous été accueilli au Parti communiste de Tours ce samedi soir avec votre association de livraison de fêtes à domicile ?
Eh bien, au départ, assez mal.
Mal, bien sûr.
Sous des néons, dans le froid.
Oui.
On a profité pour remettre les diplômes. C'est d'ailleurs un grand poète, artiste et chanteur, Arnaud Aymar, qui a remis ses diplômes.
Oui, ce sont des diplômes de sachant fêter ?
C'est des diplômes de bambouleur. C'est un diplôme de bamboule.
Je vous remercie, cher Michel Funken. N'hésitez pas à nous rappeler si vous organisez d'autres livraisons de fêtes à domicile dans la région Tourangelle.
Eh bien, bien sûr. Allo Bamboule à votre écoute toute l'année, bien sûr, même si on ne peut pas venir.
Gros bisous, gros béco sur la bouche. Tout de suite, on va à Marseille rejoindre Bouchta, notre correspondant marseillais. Bouchta qui nous avait raconté les aventures de sa cousine. Comment ça va à Marseille, cher Bouchta ?
Bonjour, mon petit Édouard. Ça va, mon poussin ?
Oui, ça va bien, toi ?
Eh ben, il fait beau à Marseille depuis deux jours, je te jure, on dirait le bon Dieu est en train de nous faire un piège.
Pourquoi ?
Le ciel bleu, 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 on dirait le printemps. À part qu'il fait frais, bien sûr, le matin, mais il fait trop beau. On dirait le printemps, mois de mars.
Quelles sont les conversations dans ton quartier ?
Eh ben, la conversation peut changer. Ma voisine, elle n'en peut plus. Elle va voir son premier mari, c'est le mari de... Quoi ? Le père de sa fille. Et elle a 12 ans, la fille. Et elle va voir son mari, il est en prison depuis à peu près un an et demi. Je crois qu'il a fait... Non, ça fait deux ans quand même. Et il est rentré pour rien. C'est un ancien braqueur et tout ça, à la retraite. Et un jour, il y a eu un trafic, encore un autre braquage, un gros trafic, un gros cambriolage de camion, là où il y a l'argent dedans. C'est le camion. Et quand ils ont fait le cambriolage, tout de suite, ils ont dit, c'est lui. Pourtant, lui, il était gentil, tranquille en Corse, dans sa petite maison. Et les autres, ils étaient à Cannes en train de faire un cambriolage, ils sont partis chercher à lui direct. Deux ans et demi de prison, et là, ils attendent de trouver des preuves pour qu'il sorte. Et ma copine, peut à chaque fois qu'elle va le voir, c'est son mari, bien sûr.
Oui.
Elle en a deux. Elle est comme les musulmans, ils ont droit à quatre femmes, elle a droit à quatre maris. Bon, bref.
Oui.
Et elle va voir son mec, et en partant, pêcheur, et à chaque fois, à l'entrée, la maton, la connasse, elle est très gestapo. Alors, quand elle rentre, les fils, ils sont jolis, ils ont des beaux sautifs ou des beaux strings, c'est qu'il faut quand même gâter le mari. Eh bien, la connasse, elle prend des ciseaux, crac, et elle coupe. Crac, et elle coupe. Elle coupe tout.
Ah oui. Elle coupe les sous-vêtements des femmes qui vont par loin voir leur mari.
T'as tout compris.
On est dans le cadre de l'application de quelle directive du ministère de la Sécurité et de la Justice ?
Ah, je sais pas. Quel cadre, mais en tout cas, elle fracasse le tableau.
Bon, merci. Bouge ta enquête pour nous, savoir si c'est un abus de droit ou si ça fait partie du cadre administratif.
Non, elle abuse. Non, elle abuse.
Elle abuse. Je te fais un gros béco. Gros bisous.
Tu donneras le numéro de son mari, tu appelleras son mari, tu expliqueras tout.
Merci, on repart tout de suite dans ce Uber qui est en train de sillonner Paris, de Saint-Germain-des-Prés jusqu'à Saint-Denis, l'axe intramuros-extramuros. Ouais. Vous en êtes où de votre idée de faire un livre ?
Je ne sais pas, je vais demander au chauffeur. Où est-ce qu'on est ?
Avenue de l'Opéra.
On est à l'avenue de l'Opéra, et puis je suis sûr avec David.
Oui, absolument. Et de l'Opéra.
Donc vous éditez n'importe quoi, vous me disiez.
Alors j'ai dit n'importe quoi, mais j'ai dit...
Vous me disiez.
J'ai dit plein.
Oui, là il y a une faute de français. Repassez-moi le chauffeur Uber, s'il vous plaît.
Oui, il n'est pas terrible, le chauffeur c'est mieux.
Oui, non, il est bien aussi, vous, tout est bien. Monsieur ?
Chauffeur, oui.
Vous êtes conscient de ce qui se joue à l'arrière de votre voiture, le destin d'un homme qui va peut-être devenir écrivain ?
Oui.
Il se passe souvent des grandes rencontres professionnelles à l'arrière des limousines ?
C'est la première fois que ça m'arrive.
Et ça vous fait un choc ou ça vous en touche une sans secouer l'autre ?
Ouais, ça sort de l'ordinaire quand même. Il est calme, il est concentré. On est en face de l'opéra.
On est en face de l'opéra, alors que des petits rats se préparent à faire des entrechats à l'arrière des limousines, on devine.
Alors, cette édition, c'est Eddie Livre ? Ouais, c'est Eddie Livre.
Des contrats, des acquaintances.
Des acquaintances, il est en train d'essayer de...
Des signatures secrètes. Je te prête ça, tu me rends ça, je connais un tel. Et pendant ce temps, la roule la voiture, passe devant les petits rats, les petits chats, les entrechats, les vieilles professeurs russes qui donnent des coups de bâton sur les pieds des élèves en disant « Moi, j'en ai bavé, tu vas en baver aussi ». Ça roule ce matin, ça s'engueule, ça se disturbe, pendant que les matones, là, à Marseille, empêchent les strings d'entrer dans les quartiers de haute sécurité, pendant que des livreurs de fêtes à Tours continuent à essayer de dire au Parti communiste français « Joie, joie et confetti dans les cœurs », partout, 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 la ville étend ses tentacules de joie et de vie. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Ils mouillent la chemise, les journalistes des jours, ouais. Thomas Baumgartner. Ah, ils y vont franco de porc, quoi. Ils ont pas peur. Raphaël et Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Avez couvert, hein, j'aime bien ce mot, vous avez couvert les derniers meetings d'avant le final des primaires socialistes. Il y avait le meeting Hamon et le meeting Valls. Et là, vous en avez rapporté des secrets, Thomas.
Oui, vous avez pressenti un peu quelque chose, parce que vous, clairement, dans ce qu'on peut lire sur lesjours.fr, Raphaël Garrigou et...
Martine.
Isabelle Roberts.
Isabelle Roberts, pardon. C'était deux salles, deux ambiances, grosso modo.
Oui, carrément. Il y avait 3000 personnes chez Benoît Hamon, 500 chez Manuel Valls. Tout le monde faisait la gueule chez Manuel Valls et chez Benoît Hamon, il y avait un DJ, tout le monde dansait.
Combien de temps avant le résultat, ça ?
C'était jeudi soir.
Est-ce que, par exemple, ce son « Ouais !» c'était plutôt chez Hamon ?
Ouais.
Et « Ouais !»
Exactement, c'était comme ça. Il y avait même du Che Guevara à Montreuil, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Il y avait un DJ qui avait remixé quelques chansons, quelques chants révolutionnaires. Ouais.
Ce qu'on comprend, et ce que vous avez compris aussi vous-même sur ces deux terrains-là, c'est que Benoît Hamon, grosso modo, parlait aux socialistes et aux gens de gauche qui allaient voter, alors que Manuel Valls avait pris un temps d'avance, peut-être un petit peu trop tôt, en parlant à tout le monde, alors qu'il fallait parler plutôt à ceux qui allaient voter dimanche.
Disons que ça, c'est vrai, c'est un des argumentaires de campagne, effectivement, de Manuel Valls, c'est ce que nous ont dit des militants. Et je ne sais pas sur la foi de quoi ils estiment que Manuel Valls englobe plus la France que Benoît Hamon. Alors, ce qui était intéressant à Montreuil, c'est que je crois...
À Montreuil, ce qui est assez rare dans les meetings, c'est qu'il y avait des gens, des vrais gens, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas encartés au PS, qui n'étaient pas des sympathisants, des gens qui avaient... j'ai parlé vraiment à plusieurs... Oups, j'ai spoilé un truc. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu à la télé, Benoît Hamon, et que donc ils avaient décidé de venir parce que ces idées les avaient intéressés. J'ai spoilé un truc parce qu'on ne voulait pas dire qui était chez Hamon et qui était chez Valls. Ah. Donc c'est moi qui étais chez Hamon, j'avoue.
Ah bah voilà, vous l'avez dit, on ne saura
pas
comment vous êtes partagé.
On ne sait pas qui est Raphaël, qui est Isabelle, ne vous inquiétez
voilà.
pas.
C'est vrai.
Non, et puis l'autre chose aussi, c'est que vous dites, c'est que Benoît Hamon s'est détendu au fur et à mesure de la campagne, que ce moment, ce meeting était un peu le paroxysme de ça, et riche de ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que vous pensez qu'il reste détendu, Raphaël Garou, puisque vous étiez vous chez Benoît Hamon, manifestement?
En fait, non, j'étais chez Manuel Valls.
Chez Benoît Valls, Manuel Hamon.
Mais c'est pas grave, parce qu'on l'a vu, pas détendu ensemble. Non, c'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois dans son QG de campagne, un truc moche dans la tour Montparnasse. Il venait derrière son petit pupitre avec ses lunettes. Il expliquer son programme de manière assez scolaire, mais enfin de manière assez appliquée aussi. Et effectivement, on l'a vu comme ça se déboutonner petit à petit jusqu'à hier soir, où il avait l'air très déboutonné.
Ce qui était intéressant et qui a été noté par une des personnes à qui j'ai parlé au meeting de Benoît Hamon, c'est que quand il ne sait pas quelque chose, il le dit en fait. Il dit ça, je le maîtrise pas. Bon, bah, on verra, j'essaierai d'avancer
sur
ça.
Mais est-ce qu'il peut continuer à faire comme ça?
Bah, maintenant, il faut qu'il avance un peu. Oui. C'est
pourquoi
sûr.
Pas enfin, hier, il disait « je ne crois pas en l'homme providentiel ». Et moi, je trouve ça déjà assez salutaire de ne pas croire non plus, dit-il, au concept de la vérité. Ça a été un petit affrontement avec Manuel Valls et de beaucoup d'hommes politiques qui disent la vérité, ou alors les Français pensent que. Et Benoît Hamon a l'air d'adopter une posture un peu plus humble. On verra si ça suffit pour la suite.
Et si ça dure surtout.
Alors comment va se dérouler la suite pour les jours par rapport à cette campagne?
Il faut qu'on en parle ce matin justement au jour.
Il faut qu'on en parle sérieusement.
Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On vient de lancer une obsession qui s'appelle les communicants, qui raconte justement la campagne par les communicants. Alors on était bien servi par la com de crise de François Fillon. On va aussi s'intéresser à la com de Benoît Hamon, parce qu'aujourd'hui ça avait l'air d'être fait de manière un peu plus artisanale. Désormais, qui doit entrer dans le dispositif du Parti Socialiste, ça risque de certainement changer de mesure.
Mais surtout, bien malin aujourd'hui, qui est capable de dire ce qui va se passer pour cette présidentielle. Donc, ce qui va se passer pour les jours et tous les autres médias.
Et donc, effectivement, cette nouvelle obsession sur les communicants qui a commencé vendredi par un article d'Aurore Gorius, justement sur la communication de crise de François Fillon. François Fillon qualifié de non-communicant, bien obligé aujourd'hui de communiquer. Et ça aussi, ça va continuer.
Oui, bah oui. En plus là, avec ce à quoi il est confronté, on a vu hier que sa non-communication ne servait plus à rien et que la communication qu'il essaie de mettre en place paraît un petit peu grossière. Hein, si c'est lui contre le monde entier, ça va être un petit peu compliqué à tenir comme ligne.
Merci Raphaël, Isabelle. Vous avez remarqué que avant j'étais seul avec vous, mais la rédaction Nova ne me laisse plus. Elle trouve que je préparais pas assez les interviews.
Oh, c'est pas bien, Edouard.
C'est pour ça
que Thomas m'a dit, je vais venir avec toi. Parce qu'il m'a dit, tu ne travailles pas. Il m'a dit, tu ne travailles pas assez. Il m'a dit, tu ne penses qu'à retirer des poulets en broche et les manger avec des copains avec un coup de rouge. Ce qui est vrai. Merci les jours.
Merci Edouard.
Merci Thomas.
Merci Thomas.
Oh, très bon.
Tout de suite.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon
Dieu. Mais Tito, tu penses que si les gens achetaient plus de bagnoles, on pourrait les enlever, ces pubs ou pas?
Un peu, j'espère bien, ouais.
Parce que j'ai... Alors, acheter des voitures, comme ça on passe à autre chose. Atmen et Rudy, vous êtes...
Sous la verrière chauffée, là, en ce moment, qui est réchauffée, avec du monde, qui crie « Le monde, s'il vous plaît !» Ah, ou...
Ah, effectivement. Alors, ouais,
je passe le micro à Rudy, qui veut parler de son groupe.
Mais c'est pas son groupe, et on est content. C'est
le groupe qui présente.
Pas... Voilà. Oui, je sais pas, Atmen, je vous sens pas...
Si, je suis là, je suis présent.
C'est pas le Atmen voilà, que j'ai connu à 7h du matin.
Vous ne connaissez pas le vrai Atmen.
Le vrai derrière les...
C'est un petit voyou, là. Vous pensez que c'était un agneau, alors que c'était un loup.
Un petit gamin d'Albi.
Voilà.
Cher Rudy, vous êtes le groupe Mustang est en train de se préparer. Je voudrais
exactement. Bonjour Edouard, je suis avec Atmen surtout.
Refaites-moi des sons live. J'aime bien des gens qui font ouais tout
ouais
ça.
Plus fort. Et mes encouragements.
C'est formidable. Oui, ça marche. Donc voilà. En ce moment-là, à quelques mètres du studio, vous êtes là. Ah oui, c'est très étonnant.
Oui, un peu comme Jean-Pierre Descombes, tu vois, celui-là.
Oui, c'est des références qui sont bien contemporaines.
Merci.
Rudy, qui est ce magnifique groupe Mustang que moi je connais, mais peut-être certains auditeurs aimeraient en savoir plus.
Alors, dans toute cette profusion d'artistes qui se mettent à chanter tant bien que mal en français depuis maintenant quelques années, s'il y a bien un groupe que nous ne voulions pas voir s'éclipser, c'était bien eux. Alors, eux, ce sont Jean Felsine, Rémi Faure et Johan Gentil qui forment depuis maintenant plus de 10 ans le groupe Mustang. Eux, nous ne voulions pas cesser de les entendre car il y a ce qu'elle quelque chose de brut, de sauvage, d'acéré, mais surtout de terriblement authentique, que ce soit dans les textes ou dans la musique de Mustang, n'en déplaise à certains, et surtout dans la grande tradition du rock'n'roll des années 50, qu'il soit français ou américain, le rock'n'roll, Mustang nous rappelle que chanson et rock'n'roll ne sont vraiment pas incompatibles. Et puis un groupe qui compte autant d'atouts que être signé sur l'excellentissime label Arag Record, d'avoir été repéré lors d'un concert hommage aux Velvet, oser s'approprier dans leur dernière la mythique saillie de Gabin dans la traversée de Paris. Le dernier EP s'appelle Caraboudjan, en référence au mythique cargo dans le crabe aux pinces d'or. Nous ne pouvions qu'avoir envie de réveiller nos auditeurs avec eux.
Alors, cher Rudy, passez-moi ou Jean Felsine ou Rémi, ou passez-moi...
Alors, Atmen, j'envoie Atmen à Jean Felsine.
Juste avant le...
Jean, vous êtes avec Edouard.
Jean, je suis en duplex, là, j'ai pas pu être là à temps. Je suis à 6 mètres. Jean, on ne sait jamais comment on nomme son groupe. Est-ce qu'on se réunit à 3-4, on boit des bières, on se dit on l'appellera Mustang. Comment ça vient le nom d'un groupe?
C'est-à-dire que le mec qui a trouvé le groupe, c'est un ancien guitariste qui depuis est parti et il nous a laissé ce fardeau en partant. voilà ce que je peux vous dire.
Donc le mec, vous vous êtes engueulé, il a laissé sa guitare et son nom.
Non, il est parti avec sa guitare, mais voilà, il nous a laissé l'appellation.
C'est assez beau, c'est comme les vieilles rues de Paris, on ne sait plus pourquoi, mais ça...
Exactement.
Mais ça va rester. Merci messieurs de venir jouer si tôt le matin.
Je vous en prie.
Le premier morceau que va jouer Mustang est donc tiré de leur dernier EP. Il est très à propos, il s'appelle Salaud de pauvre. Je vous invite à aller voir le clip qui tourne sur le net. Mustang.
Merci tonton Rudy.
Bienvenue, c'est à vous, je t'embrasse Edouard. Viens danser le rock.
Il fallait venir d'ici, c'est chouette.
Tais-toi donc, pipounette et pipounou.
Allez, on écoute. Merci les Mustangs, Thierry Paret et gloire aux 30 Glorieuses. Salut, à demain.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.